Donc cette année, le thème, c'est le baptême.
Et il y a donc 4 conférences préparatoires. Et les 3 dernières de l'année, ce sera précisément sur le rituel du baptême et l'aspect plutôt sacramentel. Mais j'ai estimé important de faire des conférences pour voir qui est baptisé, c'est l'homme. Donc on a fait une première conférence pour rappeler ce qu'était la nature de l'homme et comment il est constitué, comment Dieu le voit dans son plan général, avec sa composition, son caractère progressif, son caractère historique et politique, etc. Et donc toute cette complexité de l'homme, mais la place de l'homme dans le plan divin comme image de Dieu, même naturellement. Ça, c'est un point de départ très important. Et aujourd'hui, on va voir l'élévation à quelque chose qui dépasse la nature. C'est pour ça que j'ai mis comme titre une citation de Blaise Pascal dans Les Pensées, où il explique que pour comprendre l'homme, eh bien, il faut aller plus loin que la simple constatation de ce que la nature peut nous enseigner. L'homme passe infiniment l'homme, c'est une phrase très célèbre de Pascal. En fait, il dit ça un peu à propos des contradictions qu'on trouve dans l'homme. Quelle chimère est-ce donc que l'homme ? Quelle nouveauté, quel monstre, quel chaos, quel sujet de contradiction, quel prodige ? Juge de toute chose par son intelligence, je rajoute. Imbécile, ver de terre, imbécile, c'est au sens classique du terme, ça veut dire faible. Dépositaire du vrai, mais cloaque d'incertitude et d'erreur. Gloire et rebut de l'univers. Vous voyez, c'est la vision que Pascal avait de l'homme qui est assez juste, quoi. Et on le verra dans la prochaine conférence où on parlera du péché originel. Qui démêlera cet embrouillement ? Connaissez donc, homme superbe, quel paradoxe vous êtes à vous-même. Humiliez-vous, apprenez que l'homme passe infiniment l'homme. Écoutez votre Dieu. Donc l'idée de Pascal, c'est de dire que la clé du mystère de l'homme, même naturellement, et surtout réellement, concrètement, dans l'économie actuelle du salut, c'est vraiment d'aller vers le mystère de Dieu. Que l'homme ne s'éclaire pleinement que dans le mystère de Dieu. Donc la première conférence, on a vu la nature de l'homme. On va voir la proposition incroyable que Dieu fait à l'homme de dépasser sa nature et de rentrer dans une amitié avec lui. Et la prochaine fois, on verra comment les choses se cassent la gueule. Un peu plus que le petit truc là qui est tombé. C'est-à-dire, ça, j'ai intitulé ça la prochaine fois, à l'origine une catastrophe, point d'interrogation, mais on peut barrer le point d'interrogation, c'est le péché originel. Parce que pour parler du baptême, il faut situer quand même la texture concrète de l'homme avec cet état normal qu'il a, cette maladie du péché originel. Et le 4e conférence préparatoire, c'est le Christ. Et pour résoudre le problème consécutif à la chute de l'homme, eh bien, il fallait le Christ. Voilà. Et donc après, on abordera le rituel du baptême. Donc il y a l'homme, la nature de l'homme, il est appelé à la grâce, l'homme est créé librement par Dieu, très important. En fait, le rapport de Dieu et de l'homme, c'est un jeu, si vous voulez, un jeu sympathique, où Dieu évidemment a l'initiative, mais c'est un jeu de liberté. Dieu crée l'homme librement, il l'élève librement à la grâce, l'homme se casse la figure dans le péché originel librement et coupablement, et Dieu librement donne le Christ qui rétablit les choses de façon encore plus merveilleuse. Dans le rite romain, j'ai romain parce que nous, dominicains, il y a les petites choses. Quand le prêtre bénit la petite goutte d'eau qu'on met dans le calice, il dit Dieu qui avait fait la nature humaine d'une façon admirable et qui l'avait réformée par le Christ, sous-entendu, d'une façon plus admirable encore. Donc c'est important d'avoir ces 4 étapes, hein, la nature, la grâce qui est gratuite, la chute et le Christ. Et après, donc, on rentre dans le mystère du baptême. Vous voyez vu l'arbre en boule, là, les militaires. Bon, donc voilà, ça fonctionne comme ça. Alors, donc, je rappelle d'abord dans mon petit résumé. Et je le rappellerai d'autant mieux que le patron me montra ma Cronenbourg, là, qui me manque.
Ça arrive.
Merci. Donc, grandeur et imperfection du bonheur naturel. Ça, c'est assez important. Vous voyez, même naturellement, l'homme, c'est quelque chose d'étonnant. C'est quelque chose, je vous ai rappelé, il est à la jonction de l'esprit et de la matière. Il est voulu par Dieu comme son image. C'est-à-dire vraiment, Dieu veut les anges et les hommes comme les êtres qui lui ressemblent plus, qui sont plus proches de lui, parce qu'ils lui ressemblent dans ce par quoi Dieu les fait. Ça paraît curieux comme définition, mais c'est très profond. Un prof, si vous voulez, qui enseigne sa classe, s'il y a son fils dans la classe, son fils lui ressemble. Mais il lui ressemble par le physique, si vous voulez. Et ce qu'il cherche à faire comme prof, c'est qu'il lui ressemble par la science. Bien, quand Dieu fait le monde, tous les êtres ont la ressemblance de Dieu, mais seuls les anges et les hommes ressemblent à Dieu par l'intelligence et la volonté, par l'esprit. L'esprit, c'est le miroir de Dieu dans les choses. Donc ça, c'est un point extrêmement important. C'est une clé, à mon avis, de toute l'anthropologie. Donc l'homme cherche son bonheur, et on a vu que le bonheur naturel de l'homme, c'était quelque chose de composé, d'un peu difficile. Donc, c'est quelque chose de composé. Ça va ? Non, non. Donc, il faut, avec... oui, j'ai oublié de vous faire le rappel que je suis très troublé dès que vous échangez. Hein, ça me freine mon énergie à 5% du potentiel. Bon, enfin, il en reste quand même 95%. Mais, voilà, bon, je fonctionne comme ça. Donc, oui, il y a une composition dans l'homme du fait qu'il est matière et esprit, qui fait que son bonheur suppose un ensemble de biens temporels et de jouissances, l'exercice des vertus morales pour se conduire comme homme, et puis la contemplation. Alors ça paraît un peu plus étrange pour des modernes, la contemplation. Guillaume, vous avez un résumé à l'entrée, là, qui vous attend. La contemplation, parce qu'il ne faut pas le prendre dans un sens trop technique. Hein. La contemplation, si vous voulez, c'est la vision intérieure qui nous anime quand on agit. Et si vous voulez avoir une idée de contemplation un peu burlesque, c'est dans le film Le Dictateur de Charlie Chaplin. On voit, je ne l'ai pas vu, j'ai dû voir des extraits. On voit Hitler qui joue avec le globe. Et il est là, fasciné par le globe qu'il espère dominer. Et en fait, vous voyez, un conquérant a une vision intérieure. Et les hommes qui ont changé l'humanité, ils ont une contemplation qui les pousse à agir. Hein, le scientifique, bon, bah, ou le technicien, ou le militaire, il a une contemplation de la, de la beauté, de la conquête, ou je ne sais quoi, vous voyez. Donc c'est très important, parce que ça, les modernes oublient beaucoup, qu'en fait, ce qui est le plus important chez l'homme, c'est le rapport à la vérité. Et donc, en fait, pour les anciens, et c'était quelque chose de très important, l'élément le plus fort du bonheur naturel, c'est notre rapport à la vérité, qu'on appelle contemplation, qui est maximale, si vous voulez, pour certains spécialistes qu'on appelle les sages, mais qui est partagée par tout le monde, par l'art, par la musique, par l'approfondissement, par, vous voyez, on a dit que si Hitler avait aimé Mozart plutôt que Wagner, peut-être que l'histoire aurait été changée, quoi. Parce que ce qui, en écoutant, bon, on peut évidemment avoir des sentiments moins meurtriers en écoutant Wagner, bien sûr. Mais c'est sûr que ça n'éveille pas la même chose que Mozart. Bon, ce jugement est peut-être discutable, mais il est quand même assez intéressant. Vous voyez, il y a une contemplation qui habituellement est suscitée chez les gens par la culture générale, par l'art, par la musique et tout. Et aujourd'hui, elle est très faible parce que la culture générale est très matérialiste et donc diminue ou minimise le rapport au vrai. Et donc, il y a vraiment un vrai problème pour notre civilisation. Mais donc, tout cet ensemble de biens est très grand, mais en fait, il est difficile. Et donc, je vous ai mis dans le petit résumé, hein, les jouissances sensibles, bon, elles sont intéressantes, mais elles se concurrencent l'une l'autre. En plus, on ne peut pas éprouver tout le temps la jouissance sensible sans être fatigué, etc. Bon, ça, déjà, rien qu'au niveau sensible, il y a des problèmes. C'est qu'un élément, si vous voulez, de l'équilibre de l'homme. Ce n'est pas le tout de l'homme. Si ça fait son tout, ça ne marche pas. Bon, la vertu, c'est bien d'être vertueux, mais dans le bonheur naturel, la vertu se limite vraiment à ce qui est autour de nous. C'est-à-dire qu'il y a l'exercice de la vertu est au niveau de la cité, de la famille, si vous voulez, de la cité. Mais il est difficile d'être juste et miséricordieux et avec tous les hommes de l'univers. Sans la charité, c'est à mon avis impossible. Pour Nietzsche, c'est impossible, hein, mais je crois qu'il a raison. Donc vous voyez, cette limite déjà qu'avaient vu les Grecs, la vertu, si vous voulez, se limite à la justice et à la tempérance dans la cité. Et puis l'amitié, qui est la fleur de l'ordre politique, eh bien, l'amitié, c'est ce qu'il y a de mieux, peut-être, en dessous de la contemplation. Hein. Mais l'amitié, s'il n'y a pas la grâce, on n'atteint pas le mystère de la personne. Donc, c'est une limite très importante pour le bonheur, y compris le bonheur conjugal. Hein. C'est pas la charité qu'on se compte interconnecte entre personnes. Parce qu'on dit cruellement, on n'aime pas des personnes, on n'aime que des qualités. Mais il y a quelque chose de vrai, c'est un peu une boutade, mais c'est un peu vrai. Parce que comment pourrait-on aimer ce qui est un mystère ? Or, la personne est un mystère qui n'est dévoilé que dans le christianisme, à mon avis. Absolument. Enfin, il est pressenti ailleurs, mais il est dévoilé dans le christianisme parce que le Christ est une personne. Et parce qu'il y a trois personnes dans la Trinité. Donc, vous voyez, tous ces éléments, alors je peux que survoler, hein, parce que tous ces éléments du bonheur naturel sont limités. Et c'est vrai que disons que l'ensemble des hommes se sont rendus compte que, ben, au fond, le bonheur, c'est quelque chose qu'on est toujours à poursuivre, vous voyez. Même naturellement, même en dehors du péché dont on parlera dans un mois. Hein. Le bonheur, on s'aperçoit, on fait telle chose qui vient, c'est bien, mais le reste, c'est bien aussi. Et donc, on ne peut pas tout faire. Par conséquent, il y a toujours une certaine insatisfaction. Même dans la contemplation la plus profonde qu'on peut avoir, par l'art, par la métaphysique, la contemplation du vrai, de la source du vrai qui est Dieu, eh bien, il y a une insuffisance. Pourquoi ? Parce que, le type qui réfléchit à Dieu, bon, voilà, plus je pense et moins je peux penser que cette horloge tourne et n'est point d'horloger, disait cette fripouille de Voltaire. Voilà ce qu'il disait, c'était vrai. Hein. Le Dieu des déistes, vous voyez, il fait tourner le monde. Bon, mais est-ce qu'il pense à moi ? Et est-ce qu'il m'aime ? Ça, c'est très important, vous voyez. Saint Thomas dit dans un de ses opuscules de controverses musclées avec l'islam, ou plutôt avec les musulmans, hein, et les juifs et les arméniens dans ce controverse-là. Il dit, en fait, ceux qui se disent les adorateurs de Dieu, les cultores dei, sont des gens qui croient à la providence, qui croient qu'il faut prier et qui croient que Dieu a un certain rapport avec nous. Si on ne croit pas que Dieu a un rapport avec nous et que la prière et qu'il faut prier, on ne peut pas se dire cultores dei. Parce que bon, même la notion de providence un peu insuffisante dont on parlait tout de suite dans l'islam est quand même chez les penseurs au moins du XIe siècle très présente comme une réalité de Dieu. Bienvenue, bonne année. Vous avez le petit résumé à l'entrée là. Prenez place, ne vous faites que de passer. D'accord, alors à bientôt. Donc voilà, donc ceux qui se disent les adorateurs de Dieu doivent penser que la prière a une certaine utilité. Mais ça reste un mystère. Dieu existe, Dieu fait tourner le monde, mais est-ce qu'il pense à moi ? Et même Aristote, au fond, a tâtonné là-dessus, et finalement il s'est trompé, je pense, enfin, semble-t-il. Et en tout cas, est-ce qu'il m'aime ? Alors là, ça c'est encore beaucoup plus difficile. Et donc, vous voyez que le bonheur naturel, bon, il est réel, mais il reste une interrogation. Je vois que Dieu a fait le monde, mais qui est Dieu ? Ça m'intéressait quand même, quand vous connaissez des belles œuvres d'un artiste, quelquefois vous vous dites, bah, j'aimerais bien connaître le type qui a fait ça, quoi. Alors, quelquefois vous êtes déçu aussi, parce que les artistes sont souvent insupportables. Ou les grands hommes, enfin, qui ont fait des grands bouquins, quand on les découvre, ils sont des caractériels. Bon, mais bon, quand même, hein, c'est vrai qu'on n'a pas le même rapport avec le gars quand on voit le gars que quand on voit son œuvre. Hein. Et donc il y a cette question très fondamentale. Et c'est pour ça qu'il y a un très beau passage dans saint Thomas qui aime beaucoup, au fond, les penseurs. Il aime ceux qui cherchent. Et il dit, ces génies sublimes ont eu de grandes angoisses parce qu'ils savaient que le bonheur imparfait est dans la recherche de la vérité, mais qu'on n'arrive jamais à saisir toute la vérité. Et comme ils ne savaient pas que l'âme était éternelle, ou du moins, ils en doutaient, pour Platon, c'est un beau risque, etc., eh bien, il disait, au fond, l'homme est un être qui n'arrive jamais au bonheur plénier. Mais nous sommes libérés de cette angoisse si nous posons avec les documents de la foi, que l'âme est éternelle et que nous verrons Dieu. Nous verrons Dieu. C'est le deuxième point. Donc il y a une grandeur, vous voyez, une insuffisance du bonheur naturel qu'il faut en avoir le... Je ne sais pas quel mot employer, mais il faut aimer l'art, la science, il faut aimer le... si vous voulez, les chrétiens aiment le monde, hein. Mais c'est vrai que le bonheur diffère des plaisirs. Au fond, le vrai bonheur est un peu au petit bonheur bourgeois, si vous voulez, ce que la joie est au plaisir. La joie est bien supérieure au plaisir, surtout au plaisir avec un S. Alors les plaisirs, on ne les refuse pas. Hein, ils sont une fleur de l'action. Hein. Donc il faut du plaisir aussi. Saint Jean Chrysostome dit, nous les chrétiens, nous aimons le plaisir plus que vous, païens, mais nous aimons le plaisir dans l'ordre. C'est magnifique ça, métacosmo, dans la beauté. Dans l'ordre ou dans la beauté. Alors cherchons ce... Voilà, il y a un beau passage de Bossuet que je me suis copié pour faire plaisir, mais vous ne l'avez pas dans vos résumés. C'est le début des méditations sur l'Évangile. Tout le but de l'homme est d'être heureux. Jésus-Christ n'est venu que pour nous en donner le moyen. Mettre le bonheur où il faut, c'est la source de tout bien, et la source de tout mal, et de le mettre où il ne faut pas. Disons donc, je veux être heureux. Voyons comment. Voyons la fin où consiste le bonheur. Voyons les moyens pour y parvenir. La fin est à chacune des 8 béatitudes, car c'est partout la félicité éternelle sous divers noms. Donc le discours inaugural du Christ, c'est le bonheur. Alors justement, ce bonheur, cette béatitude, est quelque chose de tellement invraisemblable qu'heureusement qu'il est venu pour nous l'expliquer. Parce que, deuxième point, enfin c'est le grand B du grand 1, Dieu appelle l'homme à une béatitude qui le dépasse. Et là, on arrive à une clé... de ce que j'ai appelé, je crois, dans le résumé, l'originalité fondamentale du christianisme. Je sais que j'avais fait une conférence où je disais la résurrection du Christ, originalité absolue du christianisme. Les deux vont ensemble. Fondamentalement, le christianisme est ce qui nous appelle à voir Dieu. Ça, c'est le premier truc. Et puis, deuxième, c'est le Christ est ressuscité. Donc, c'est les deux choses qui sont pas, sur lesquelles les autres religions n'ont pas fait de copier-coller. Quoi. C'est que il n'y a que... Donc, il n'y a que le christianisme qui dit des choses pareilles. Il y a peut-être des contrefaçons, mais enfin, en gros, il n'y a que le christianisme qui affirme ces choses-là. Donc, Dieu est vraiment, nous appelle l'homme à une béatitude qui le dépasse. Il appelle, au fond, l'homme à dépasser les limites de sa nature. Et assez curieusement, au fond, ça nous convient bien. Parce que même en dehors du péché, on s'aperçoit que le bonheur est dans un espèce de truc qui n'est jamais fini. D'ailleurs, c'est vrai qu'on s'aperçoit que ce que disent les gens qui réfléchissent là-dessus, ils disent, vous voyez, dans le bonheur, il y a un peu deux aspects. Bon, il y a des bonheurs un peu plus, ce que je vous ai dit, hein, les bonheurs de la jouissance, de la vertu, de l'amitié, etc. Et puis, il y a une autre dimension de la béatitude qui est l'aventure, quoi. Qui est la vision intérieure, qui est le truc exaltant. Et on s'aperçoit bien, et en fait, là, par exemple, un scientifique qui est dans la recherche scientifique, qui trouve des trucs, il n'en finit pas, et il explore le monde, et il sera toujours plus étonné de ce qu'il n'a pas découvert que de ce qu'il va découvrir, quoi. Et son bonheur est là-dedans. Mais en même temps, ça n'en finit jamais, quoi. Donc, en fait, l'humanité oscille un peu entre deux conceptions, un peu. Les conceptions, ça vient sans doute du péché, je pense. Mais enfin, on le constate, hein. Soit on est dans une phase de décadence où on cherche des petits bonheurs bourgeois et débiles et, bon, et chacun pour soi. Soit on est dans des phases un peu d'exaltation, de fanatisme ou de totalitarisme. Ou si vous voulez, la béatitude, c'est de transformer la planète, c'est de l'exaltation de la race ou la société sans classe ou la conquête du cosmos, enfin ou que sais-je, un truc complètement qui vaut qu'on sacrifie des petits bonheurs quotidiens. Mais on se rend bien compte que les deux choses jouent dans la perspective de... les deux choses jouent dans la perspective de la béatitude de l'homme. Et je crois qu'une des raisons pourquoi les gens crèvent un peu d'ennui aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus d'aventure. Quoi. Enfin, ou du moins, on ne la voit plus tellement présente. Alors, il y a eu la chute des grandes idéologies. Bon, il y a une certaine aventure un peu fanatique du côté de certaines religions totalitaires, bon, qui, par erreur, emmène des gens vers eux. Il y a quelques aventures, si vous voulez, mais quand même, on est beaucoup dans une période, si vous voulez, où les gens s'imaginent que le bonheur, ça soit... Enfin, n'y croient pas, en fait, si vous voulez. Sauf peut-être les femmes, et encore... parce qu'heureusement, elles maintiennent un peu pas l'illusion, mais... Hein, bon, ça, c'est indépendamment du christianisme, et elles ont raison, parce que sinon, ça va tous suicider, mais bon. Mais voilà, bon, c'est le truc bourgeois, ennuyeux, machin, mais bon, alors, on fabrique le bonheur avec... On s'aperçoit, d'ailleurs, quand on voit le contenu moyen de la communication actuelle, c'est très, très, très superficiel. Voilà. Voilà, donc il y a je crois que cette histoire d'aventure, c'est important parce que, si vous voulez, l'homme est appelé à se dépasser lui-même. Enfin, tous les officiers qui ont commandé des commandos ou les types qui ont travaillé dans des équipes difficiles en recherche scientifique ou ailleurs, où il y a un truc difficile à faire, savent qu'on peut galvaniser les gens, leur faire oublier beaucoup de petits conforts, parce qu'il y a une vision intérieure qui nous habite. Et ça fait partie de la béatitude humaine naturelle. Mais c'est tellement difficile de faire l'unité qu'on oscille entre la décadence et au fond la tyrannie ou un truc excessif dans l'autre sens. Alors justement, dans le christianisme, on a une aventure pacifique, enfin musclée, mais pacifique, hein, qui est une béatitude qui dépasse vraiment les limites de la nature humaine. Donc, il y a un père de l'Église qui a dit « L'homme est un être qui a reçu l'ordre de devenir Dieu par grâce. » Donc c'est très beau. Et la béatitude... Venez, il y a de la place par ici, ce serait dommage que vous restiez au bout, parce que vous avez de la place, il y a plein de place par là. Prenez un petit résumé à l'entrée, sur la table. Vous avez des résumés là. Donc, cette béatitude va prendre toutes les dimensions de l'homme. Comme esprit, c'est la vision de Dieu, et comme animal, c'est l'immortalité. Et ça, dans tous les plans. Hein. Adam et Ève étaient appelés l'immortalité. Bon, ils l'ont perdu. Mais nous sommes appelés par la résurrection du Christ. Donc le corps a aussi sa part. Je vais surtout insister sur la part qui est donnée à l'esprit. Donc le christianisme nous dit, voilà, l'homme existe comme je l'ai dit. Il est progressif, politique, moral, raisonnable, libre. Dans tout ça, c'est déjà pas mal. Hein. Bon. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui perdent de vue tout ça aujourd'hui. Mais bon, ça c'est magnifique, mais c'est pas le bonheur parfait. Et Dieu a daigné dès le début, au paradis terrestre, et puis il a renouvelé l'invitation après, appeler l'homme à une sorte de bonheur bien, bien supérieur, hein, qu'on appelle la vie éternelle. Et ça, j'en parle parce que vous voyez, le baptême, c'est la première question qu'on pose, que demandez-vous à l'Église, la foi, que vous procure la foi, la vie éternelle. Mais qu'est-ce que c'est que cette vie éternelle? Alors le pape en parle dans l'encyclique sur l'espérance, hein, au numéro 12. Il y a un très beau passage dans lequel il s'efforce de montrer que la vie éternelle, c'est pas un truc ennuyeux. Je vais refermer là, c'est juste une petite aération. Parce qu'on se dit, la vie, c'est sympa, mais c'est quand même ennuyeux. Et puis éternel, si ça tombe tout le temps, on va finir par s'ennuyer, quoi. Oui. Donc ça, je crois que c'est très important de purifier un peu notre regard et notre exploration de cette idée révélée qui est la vie éternelle, en essayant d'en retrouver la fraîcheur. Hein. L'éternité, dit Benoît XVI, n'est pas une succession continue des jours du calendrier, mais quelque chose comme le moment rempli de satisfaction dans lequel la totalité nous embrasse et dans lequel nous embrassons la totalité. Il s'agirait du moment de l'immersion dans l'océan de l'amour infini, dans lequel le temps, l'avant et l'après, n'existent plus. Donc, Benoît XVI veut nous mettre en contact d'une contemplation. Ben, vous, si vous avez la foi, c'est plus facile évidemment à faire. Ce que Dieu nous propose, si vous voulez, c'est un acte infini de bonheur, qui est justement, on traduit ça par le mot de vie, qui est au-delà des limites de l'espace et du temps. La vie éternelle. Et cette vie éternelle a sa source dans la vision de Dieu. Ça, c'est explicitement révélé par notre Seigneur, spécialement dans l'évangile de Saint Jean. Et dans les épîtres de Saint Jean, quand il apparaîtra, nous lui serons semblables, hein, nous serons comme il est, parce que notre réalité d'être transformé par la grâce sera manifestée et nous le verrons tel qu'il est. Donc l'élément premier dans la béatitude de la vie éternelle, ça vient de la vision de Dieu. Et ça, quelquefois, les gens sont un peu étonnés de ça, parce qu'ils insistent peut-être plus sur l'amour ou sur que sais-je. Alors, l'amour, c'est très important. Mais pour aimer Dieu avec la qualité d'amour qu'il mérite, ben, il faut le connaître avec la qualité de connaissance qu'il mérite. Si vous voulez, c'est sûr que votre chien, si vous avez un chien ou votre chat, éventuellement votre poisson rouge, mais là c'est moins, vous aime, enfin, poisson rouge vous aime peut-être un peu moins que votre chien, mais enfin votre chien vous aime, enfin, surtout si vous faites partie de la SPA, ou même pas, je ne sais pas, donc, mais il vous aime, mais il vous aime pas comme vos enfants, comme votre femme, enfin, si vous me dites si c'est une question de degré, je suis quand même un peu inquiet, oui, parce que vraiment je crois que l'amour entre les hommes, la spiritualité de l'amour, est vraiment une preuve antimatérialiste qui est expérimentée, je crois, par tout le monde. Et récemment, j'étais dans une abbaye bénédictine, et le père abbé s'est adressé aux jeunes à la fin. C'est un scientifique, le père abbé. Et il parlait avec un de ses collègues, thermodynamicien, qui avait perdu la foi, mais qu'il avait revu après une fois père abbé, enfin une fois moine, qui était venu voir dans son abbaye. Et ils ont discuté sur plein de trucs. Et à un moment donné, il lui dit, mais est-ce que vous aimez votre femme? Il était venu avec sa femme. Et évidemment, là, c'est une question... Évidemment, il aime sa femme, mais il n'aime pas sa femme comme ses équations thermodynamiques, quoi. Enfin, j'espère. Et justement, parce que vous voyez, ça, tout le monde l'éprouve par connaturalité, que l'être humain aime l'être humain à un niveau qui n'est pas purement matériel, quoi. Donc, pour aimer Dieu, si vous voulez, comme il mérite d'être aimé, il faut que nous le connaissions comme il mérite d'être connu. De même que pour s'aimer entre êtres humains, il faut être des êtres humains. C'est pour ça que Dieu nous a divinisés. Et comment nous diviniser? Il faut que nous ayons une intelligence qui est, par un miracle incroyable qu'on appelle la lumière de gloire, qui est la capacité de voir Dieu, si vous voulez, avec vraiment une évidence faciale, quoi. Dit, maintenant nous voyons dans un miroir, dit saint Paul, nous voyons Dieu dans le miroir du monde et dans le miroir de l'évangile, qui est un miroir bien plus performant, mais qui est quand même un miroir. Mais là je le verrai face à face et je le super connaîtrai comme je suis super connu. Donc c'est très important, cette notion de vision béatifique. Et je crois qu'il faut se rappeler que c'est l'axe de toute la morale et de toute la dogmatique et de toute la sacramentaire chrétienne. Quel est le but du chrétien? Quelle est la fin de la vie? Voir Dieu. Mais voir Dieu, ça reste pas un niveau purement intellectuel, parce que pour nous, souvent l'intelligence, surtout dans un concept moderne qui est très anti-contemplatif, oui. Alors à la limite, on arrive à faire passer l'amour, mais la vérité, l'intelligence, ça a des relents un peu fascistes, un peu totalitaires. Vous avez la certitude, donc vous êtes un type dangereux, etc. Alors qu'en fait, quand on a des certitudes, en métaphysique au moins, à mon avis, justement, on est plus sympa, parce qu'on s'aperçoit que c'est très difficile. Et en théologie aussi, oui. Toutes les connaissances sur Dieu, quand vous arrivez à une affirmation, vous ne pouvez rien affirmer de Dieu, de ressemblance entre Dieu, entre nous et Dieu plutôt, qu'il ne faille en même temps affirmer une dissemblance plus grande. Ça, c'est un enseignement dogmatique du Concile de Latran 4 ou 5. Donc vous voyez, plus vous avancez dans la connaissance de Dieu, plus vous dites, bon, je sais que Dieu est bon, je sais qu'il est juste, je sais qu'il est... Mais je sais aussi que j'ignore comment il est bon, et il est bon pas comme je suis bon. Beaucoup plus, il n'a pas, aucun des limites de ma bonté ne se trouve en Dieu. Et donc plus j'avance dans l'affirmation, plus j'avance aussi dans la nuit des négations. Ce qui fait que c'est un état extrêmement intéressant, mais extrêmement, si vous voulez, ça ne vous rend pas fier de vous-même, quoi. Ça vous rend certain, mais en même temps, plus vous êtes certain, plus vous êtes humble. Moi, j'ai connu de très très grands scientifiques qui étaient dans cet état-là par rapport à leur discipline, hein, physique nucléaire ou en astrophysique. Vous voyez que justement, ce n'étaient pas des fanatiques dans leur discipline. Hein. En politique, si ça pouvait. Tu vois, la carte qu'ils avaient, ça pouvait être des fanatiques. Hein. Enfin, ou du moins des idéologues qui avaient besoin de la carte pour faire carrière dans la fac où j'étais. Il fallait avoir la carte. Pour, au moins pour être prof. Assistant, on pouvait être trotskiste, mais pour être prof, il fallait être communiste orthodoxe. À l'époque où j'ai fait mes études. Enfin, en gros, hein, c'était ça. Mais je veux dire qu'en science, ils étaient étonnants parce que vraiment, je les sentais très humbles par rapport à la réalité. Vous voyez. Et donc, vous voyez, la vérité, ce n'est pas quelque chose qui nous rend méchants. Enfin, normalement. Hein. Par accident, oui, malheureusement, c'est vrai. Bon, mais donc, il y a la source dans la vision, mais il y a aussi, la vision entraîne un amour au niveau de la vision. C'est-à-dire que, vous voyez, la source du bonheur éternel, c'est la vision de Dieu dans la gloire, la lumière de gloire, mais aussi, c'est l'amour qui en découle dans la charité. Avec la charité que nous avons à l'instant de notre mort, notre volonté est entraînée dans l'amour de Dieu, tel qu'il mérite d'être aimé, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit s'aiment. Et donc, il y a un fleuve d'amour qui sort du trône de Dieu et qui nous atteint, et qui nous prend dans sa joie, rentre dans la joie de ton maître. Et donc, ce à quoi Dieu nous appelle, c'est pas une chose purement statique comme un cinéma, hein, sur les Champs-Élysées, le jour où on fait le remake de West Side Story, qu'on peut voir gratuitement pendant toute la journée. Bon, alors, il y a des gars qui... Vous voyez ça 5 ou 6 fois de suite, mais à la fin, ils devaient en avoir un. Hein. Mais non, c'est pas ça, c'est vraiment... On s'enfonce sans cesse dans un abîme de lumière qui n'est jamais fini. L'abîme appelle l'abîme à la voix de vos cataractes, disent les psaumes. Oui. On est envahi par un amour qui dépasse tous les amours naturels, toutes les émotions les plus fortes qu'on a eues sensiblement, affectivement, amicalement et tout, dans toute notre vie. Hein, parce que vraiment, c'est au niveau même de Dieu. Et on a une joie qui est la joie même de Dieu. Oui. Et donc, il y a une espèce de choc, il y a une rentrée dans l'espace de Dieu. Oui. C'est très bien exprimé par Romano Guardini. C'est un auteur spirituel qui est un des pères spirituels de Joseph Ratzinger. L'homme connaît une forme d'exister, donc il explique que l'homme existe dans l'espace extérieur, par son corps, dans l'espace de la vie, par ses opérations vitales, par sa sensibilité, il existe aussi dans l'espace de la vérité et de la beauté. Bon. Puis après, il explique ce que c'est que l'éternité. C'est l'entrée dans l'espace où le Père et le Fils sont en communion. C'est l'entrée dans l'espace où le « je », si vous voulez, et le « tu », sont vraiment dans une relation extrêmement forte. Ils sont deux à être tournés l'un vers l'autre dans la saisie mutuelle d'une connaissance et d'un amour infini. D'une connaissance qui ne dit pas seulement « je te connais », mais « je sais tout de toi ». D'un amour en lequel chacun est redevable à l'autre de tout ce qu'il est et reste cependant parfaitement libre. Vous voyez, c'est magnifique parce qu'en fait, le vœu de l'amour, c'est l'union. Mais comme il faut rester soi-même, c'est très difficile tant qu'on est vivant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pièces dramatiques sur les amours qui se terminent par des morts conjointes ou des assassinats. Parce que bon, c'est vrai que amour et mort, c'est une rime un peu faible. Hein, mais quand même, ça rime plus ou moins. Parce qu'on se rend compte que tant qu'on n'a pas donné sa vie, on n'a pas tout donné. Mais là, dans la vision béatifique, de même que le Père et le Fils passent entièrement l'un dans l'autre, de même, nous serons totalement en Dieu, tout en restant totalement distincts de Dieu. Et ça, c'est vraiment réaliser à la fois notre propre personne, qui soit à quoi nous aspirons, et la communion qui est notre rêve le plus profond et qui est toujours tâtonnant ici-bas, même dans la famille, même dans les communautés religieuses, dans les diocèses ou dans la cité, quoi. Et qu'il faut quand même travailler à ce qu'elle soit le meilleur possible. Vous voyez ? Mais donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de tout à fait invraisemblable qui nous est proposé, cette rencontre personnelle, hein, avec la Trinité, qui est une sorte de divinisation. Et les pères grecs appellent ça la théiosis. Nous devenons Dieu par participation. Saint Jean de la Croix dit « Je te verrai dans ta beauté et tu me verras dans ta propre beauté. » Donc c'est quelque chose de très motivant. Et Fabrice Hadjadj a écrit récemment un bouquin sur le paradis. Donc je fais une recension dans le prochain numéro de notre revue. Là, à l'entrée, vous trouverez des petits bulletins. Vous pouvez vous renseigner sur notre revue. C'est vraiment un livre assez étonnant, assez mêlé comme ce que fait Hadjadj, mais avec des choses stimulantes. Les bienheureux, dit Hadjadj, ne sont pas consumés dans l'intemporel. La vie éternelle est certes l'union intime à l'éternel, mais précisément parce qu'elle est union, elle maintient la nature et la personnalité de celui que l'éternel s'unit. Mais ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte, si vous avez étudié un peu l'hindouisme, c'est hallucinant de dire un truc pareil. Je suis uni à Dieu et je ne suis pas pulvérisé par Dieu. Et je ne suis pas non plus simplement son esclave. Je suis son ami et je suis debout devant lui. C'est très très original. Donc, si vous voulez, la personne n'est pas détruite, au contraire, elle est pleinement épanouie. Ce que dit Ignace d'Antioche, quand j'aurai saisi cette lumière au ciel, là, je serai un homme. Et c'est d'ailleurs assez consolant de voir que les qualités que nous admirons chez les autres, souvent, nous les saisissons dans le contexte de tous leurs défauts qui nous agacent. Enfin, moi, dans les premiers temps du coup de foudre, on ne les voit pas. Mais après, ça se décante. Malheureusement, on les voit. Bon. Donc, c'est le deuxième amour, et c'est ce que dit Gardini aussi pour les gens mariés. Le deuxième amour dans sa maturité est aussi dissemblable au premier que l'est la maturité d'un homme avec son adolescence. Mais l'adolescence est nécessaire. Voilà. Mais donc là, au ciel, nous verrons les qualités des gens, tous leurs défauts ont été purifiés, et ce sera vraiment très très intéressant. Et on les verra vraiment, chaque être humain comme une réussite de Dieu. Déjà ici-bas, c'est comme ça qu'il faut aimer les hommes. S'ils ne vont pas au ciel, il manquera une note dans la symphonie, quoi. Donc il faut les aider à aller au ciel, parce qu'il y a une grande symphonie, on a besoin de toutes les notes, quoi. Et donc chaque note est belle, oui. Et c'est les rapports des notes qui est encore plus intéressant. Par Hadjadj, il y a des choses absolument magnifiques. Les derniers chapitres de son livre, c'est une approche du ciel par la musique, quoi. Alors Bach, c'est la musique officielle au ciel, et pareil que Mozart, c'est ce que les anges jouent pour se détendre, quoi. C'est ce qu'on dit. Mettez d'autres auteurs si vous les aimez. Moi, je ne suis pas très spécialiste, je suis très fasciné par la musique, mais je n'ai pas eu le temps d'approfondir, sauf la musique religieuse. Alors voilà, troisième point que j'ai mis, c'est comment est-ce que Dieu peut faire un truc pareil? Pourquoi il fait un truc pareil? En fait, en théologie, on peut pas répondre. Souvent, en théologie, on ne peut pas répondre comme une démonstration du théorème de Pythagore. Et même comme une théorie physique qui peut être améliorée, mais qui est quand même prouvée par induction. En théologie, on prouve par induction, mais c'est des convenances contemplatives, si vous voulez. Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a voulu que je le voie, que je l'aime, et que je sois dans le dialogue trinitaire? Enfin, il y a un très très beau poème, Saint Jean de la Croix fait un poème absolument magnifique, Romane, ça s'appelle en castillan, c'est un beau monument de sa langue, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui discutent, quoi. Est-ce qu'on va faire l'incarnation? Qu'est-ce qu'on fait si l'homme pêche, etc. Et tout. Saint Ignace a ça aussi dans ses exercices. Il y a un petit dialogue, c'est une chose que les pères aiment bien mettre en scène, quoi, le dialogue des personnes trinitaires par rapport à la création. Et pourquoi il a voulu qu'on rentre dans la famille, quoi? C'est quand même incroyable, parce qu'il l'a voulu, librement. Eh bien, j'ai mis comme sous-titre une chose tirée de la liturgie byzantine. Donc, au moment du rite du Kérubicon, le chant des chérubins, le prêtre dit au Christ, le prêtre byzantin, « À cause de votre ineffable et incommensurable amour des hommes. » Voilà la clé. En grec, c'est « philanthropie ». Il ne faut pas traduire ça en philanthropie trop purement technique. C'est le terme exact. Saint Paul dit « humanitas ». C'est incroyable. Saint Paul dit « l'amour de Dieu pour nous, c'est une humanitas ». Et ces gardiens disent « pardis notre Dieu, il est, comment dirais-je, il est humain ». C'est magnifique, parce que vous voyez, humain, ça veut à la fois dire « c'est humain, trop humain ». Et puis quand on dit quelqu'un, il est vraiment humain, vous voyez, c'est là on rejoint Pascal, quoi. L'homme, c'est la gloire et le rebut de l'univers. C'est impressionnant, parce que l'humanisme, je crois que c'est une grande chose. Mais en même temps, ce qui est trop humain n'est pas bon. Voilà. Mais donc, pourquoi Dieu a fait ça? Eh bien, la clé, enfin, si vous voulez, en fait, en théologie, c'est un projecteur, enfin, des projecteurs qui sont des très très puissants, qui peuvent aller très très loin avec des tas d'ondes super géniales qui ne sont pas gênés par les obstacles. Mais donc, il y a un projecteur, il y a une planète, enfin une constellation ou un objet exotique qui éclaire un autre. Quoi. C'est comme ça. En fait, c'est une lumière qui éclaire une autre lumière. Et là, le fait que Dieu nous appelle à la vision béatifique m'a été éclairé par quelque chose qu'on appelle l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu que saint Thomas analyse dans ses œuvres, en particulier dans la somme de théologie, à la question 20. Moi, j'ai un de mes religieux qui me disait « Oh, la question 20 de la première partie de la somme a changé ma vie. » C'est une question absolument magnifique. C'est l'amour de Dieu. Notre amour, dit saint Thomas, notre amour dépend des choses. Vous voyez, quand nous aimons quelqu'un, nous aimons en lui des qualités, nous aimons le bien qu'il a, et nous voulons qu'il ait d'autres biens encore, ou qu'il garde le bien qu'il a, qu'il reste en vie, en santé, et puis qu'on lui fasse des cadeaux. Vous voyez, mais notre amour est dans un état de passivité. Donc c'est très intéressant, comme on remarque. Psychologiquement, il y a toujours une certaine passivité, hein, même spirituelle, dans l'amour, et c'est beau. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne veulent pas aimer pour ne pas être dépendants. Saint Jean de la Croix a très bien vu ça. Il dit, pour ce que la souffrance est la livrée des amants. La souffrance. Et il y a un aspect, dans tout grand amour, il y a un aspect de souffrance. Parce que, voilà, à cause des limites des choses. Et donc, notre amour, il est déterminé par les choses, vous voyez. Aimer, c'est vouloir le bien. Je prends l'amour de bienveillance. Hein. Pas uniquement l'amour, on est content d'être avec les gens, de se gratifier, c'est parfait, c'est normal. Hein. Mais là, il s'agit de l'amour le plus englobant, qui est l'amour de bienveillance. Hein. Donc, aimer, c'est vouloir le bien aux gens. Donc, le père qui redresse son enfant quand il fait mal, l'aime. Celui qui ne le redresse pas quand il fait mal, ne l'aime pas. Il dit, il est mignon. Mais il a ça lui fait pouic pouic. Il a le plaisir de se gratifier. Puis surtout, il ne veut pas que et puis les enfants savent faire le chantage affectif aussi. Quoi. Et souvent, les chefs aussi ont peur de ne pas être aimés. Donc, ils n'aiment pas leurs subordonnés, du moins, ils n'aiment pas de l'amour qu'ils devraient, parce qu'ils ne leur indiquent pas les choses à adresser. Quoi. Ou ils hésitent à le faire. Bon, mais Dieu, vous voyez, donc c'est pour vous dire que notre amour est passif quoi, vis-à-vis des choses. Hein. Mais passif et actif après, parce qu'on fait du bien. Mais il est d'abord attiré par du bien, et il veut qu'il y ait encore plus de bien. Mais l'amour de Dieu, dit saint Thomas, c'est quelque chose de... C'est un peu l'inverse, vous voyez. Vous voyez, c'est que Dieu, en fait, il a une très belle phrase. L'amour de Dieu infuse et crée la bonté dans les choses. Quand on dit, voyez, l'univers existe. Bon, imaginez que le Big Bang, ça fonctionne. Enfin, moi, je pense plutôt que ça fonctionne. Enfin, en gros, comme explication actuelle. Bon, eh ben, Dieu a aimé, si vous voulez, la matière-énergie pour que, paf, elle soit paramétrée comme ça. Et si Dieu ne l'avait pas aimé, elle n'existerait pas. Il a aimé coefficient matière-énergie, si vous voulez. Après, une fois que tout ça s'est suffisamment coagulé, enfin, ça a pris quelques milliards d'années, mais avec justement les paramètres ont permis que ça se densifie, sinon, le carbone ne pouvait pas apparaître. Mais après, il a aimé les choses pour qu'elles soient vivantes. Donc, il leur a voulu le bien de la vie végétale. Vous voyez. Et après, dans les choses du monde, après, enfin, logiquement parlant, hein, il a aimé certains êtres plus que d'autres qui ont la connaissance qu'on appelle les animaux. Une connaissance sensible, mais une connaissance. Et puis, au sommet de tout ça, il a aimé les anges et les hommes pour les vouloir intelligents et spirituels et aimants. Donc il les a aimés pour être son image dans la création. Et nous, une image encore plus particulière, parce qu'on est le sceau de Dieu dans l'horizon de la terre et du ciel, quoi. De la terre, de la matière et du ciel, de l'esprit. Bon. Donc Dieu aime toutes les choses, il verse la bonté dans les choses, et plus une chose est belle, plus elle a de l'être, plus elle est aimée de Dieu. Lucifer est la créature, l'ange le plus aimé de Dieu naturellement. Même actuellement dans la damnation. Et on a besoin de se remettre devant ces choses-là. Parce que l'amour des dons de Dieu sont sans repentance. Bon. Donc, l'amour de Dieu est actif. C'est pour ça, quand on parle d'amour de Dieu, il ne faut pas mettre ça sur un plan trop... il ne faut pas trop le rabaisser, si vous voulez. Bien sûr, nous pouvons en connaître quelque chose parce que Jésus-Christ nous l'a révélé, et la Bible, mais faisons les transpositions. Ce n'est pas un amour de papa gâteau, et c'est un amour de vrai père. Donc, un amour qui crée. Alors, donc, Dieu a aimé tous les êtres dans une magnifique gradation. Et il aime tous les êtres de ce que saint Thomas appelle un amour commun, général. Hein. Dieu a aimé toutes les choses qui existent, sans quoi elles n'existeraient pas. Mais nous, et donc il aura voulu à chacun un bien. Mais il aura voulu l'être, la vie, la connaissance et l'esprit. Ça, c'est des biens finis. Enfin, fini, le nôtre est beaucoup plus, l'esprit, c'est beaucoup, beaucoup plus infini que la matière. Mais enfin, ça reste dans le limité, dans le créé. Donc il a voulu les choses, vous voyez, pour leur vouloir un bien en dehors de lui. Mais l'homme qu'il appelle à la béatitude, il lui veut le bien éternel qu'il est lui-même. Il lui veut la divinisation, si vous voulez. Donc c'est un amour tout à fait exceptionnel qui non seulement laisse les choses dans le monde, si splendide soit-il, mais à l'extérieur de Dieu, dans le monde que contemplait Aristote ou voilà, donc, que voilà, comme quand quelqu'un de croyant prie Dieu, il contemple Dieu dans la splendeur du monde, etc. Mais Dieu est en dehors de ça, et lui ne rentre pas dans son intimité. Mais il a aimé les hommes appelés à la béatitude pour qu'il les a aimés facteur Dieu, si vous voulez. Pas simplement facteur matière, ou facteur vie, ou facteur spiritualité, il les a aimés facteur trinité. C'est-à-dire qu'il les aime de telle sorte qu'ils soient divinisés. Donc il rentre vraiment dans son mystère à lui. Et ça, c'est absolument quelque chose d'abyssal. Parce que Saint Jean nous le dit, vous voyez, et dans la troisième chapitre, hein, dans son dialogue avec Nicodème, Dieu a tellement aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde. Alors ça, il y a un discours de Bossuet qui est absolument magnifique. Dieu a tant aimé le monde. Et c'est là, il reprend ça dans les trois parties. C'est absolument super parce que c'est la clé de tout. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Donc c'est par l'amour de Dieu que nous sommes appelés à ça. Donc voyez, cette vocation tout à fait extraordinaire de l'homme à quelque chose qui dépasse complètement, mais qui dépasse, on va le voir à la fin, sans détruire, sans pulvériser, quoi. C'est pas, si vous voulez, une gnose, hein, c'est pas, on vous dit pas, sors du monde, méprise complètement le monde, et ce que tu vas avoir après n'aura rien à voir, évidemment, ça sera beaucoup mieux. Saint Paul dit, l'œil de l'homme n'a pas vu, l'oreille de l'homme n'a pas entendu, l'esprit de l'homme ne peut concevoir ce que Dieu réserve à ceux qu'il aime. Les souffrances du temps sont sans proportion avec la gloire qui sera révélée en nous. Donc c'est beaucoup plus, mais en même temps, tout ce qui est bon, naturellement, sera sauvé. On reviendra là-dessus. Mais donc, vous voyez, cet appel extraordinaire provoqué par l'amour de Dieu. Et alors, le deuxième point sur lequel je voudrais vous dire quelque chose, peut-être en allant assez vite, parce qu'on l'avait déjà évoqué dans les cafés cathés, c'est qu'on a déjà, si vous voulez, ça c'est l'arrivée de la fusée intersidérale ou intergalactique, hein, on arrive dans la vision béatifique, quoi. Enfin, c'est ma comparaison un peu discutable, parce qu'on n'a pas 6 mois de voyage à faire, hein. Même pour aller sur la planète la plus proche, il y a un bout de temps, quoi. Mais là, bon, justement, on sort du temps pour entrer dans l'éternité qui soutient le temps et qui est donc présent dans notre temps actuel. L'éternité, c'est quelque chose de loin. Si vous faites vraiment l'acte de contemplation dans le Saint-Sacrement, vous descendez dans l'instant présent et vous êtes au contact de l'éternité de Dieu qui vous maintient dans l'être. Mais c'est très important parce que l'adoration, c'est pas sortir, l'adoration chrétienne dans l'amour, c'est pas sortir du réel, c'est aller dans le fond du réel. Quel est le fond du réel? Je suis créé. Et au fond, adorer demande justement d'être un peu zen, enfin, zen, pas au sens bouddhiste du terme, mais d'être apaisé un peu, de s'apaiser soi-même, d'avoir un peu moins de distraction. Pourquoi? Parce que c'est tellement simple qu'on n'y pense pas. Mais l'adoration, c'est se mettre en présence du réel le plus fondamental, qui est que je suis, je sors de la source divine. Si vous voulez. Dieu est actuellement en train de me créer et de m'aimer pour me donner la grâce, si je suis en état de grâce. Et donc ça suppose une espèce de calme, si vous voulez, de descendre dans la... J'entends en moi une eau qui murmure, disait Saint Ignace à son martyr, viens vers le Père. Une eau qui murmure, l'eau du baptême, enfin, qui murmure, l'eau est une... C'est une eau qui jaillit, mais elle jaillit, c'est curieux, elle jaillit vers la vie éternelle. Donc, en nous attirant au fond de nous, où Dieu se trouve déjà. Alors là, vous pourrez lire mon résumé. En fait, je pense que j'ai mis à peu près l'essentiel. Nous avons déjà les quatre étages de la fusée, ou les trois étages de la fusée. On n'est pas, si vous voulez, il n'y a pas une étape temporelle, et puis clac, après beaucoup d'exercices de gnose ou de magie ou que sais-je, pof, on sort, vous voyez, ou comme dans la conception de pas mal d'hindouistes, si vous voulez, le cycle du karma, incarnation, réincarnation, et puis enfin, on sort de l'illusion et on n'est plus soi. Si vous voulez, on se rend compte qu'on était au fond qu'une étincelle de Dieu, et notre moi est dissous. C'est pas du tout ça. On a déjà, nous, ici, j'ai appelé ça comment, un organisme vivant, une sorte de propédeutique à la béatitude, parce que Dieu est dans notre âme. Par la grâce, si nous sommes en état de grâce, la Trinité est dans notre âme. Et donc, à partir de là, sort tout un organisme, la grâce sanctifiante, les vertus surnaturelles, les dons du Saint-Esprit, dont j'ai parlé longuement dans d'autres conférences. Mais je crois qu'il est très important de comprendre que, parce qu'à mon avis, c'est une chose sur laquelle je suis un peu étonné que les moralistes et peut-être les prédicateurs n'insistent pas assez. On a déjà, le christianisme, c'est pas uniquement une morale. Enfin, je suis pour la morale, les gars. Je suis pour la vertu contre le péché, enfin, en gros, quoi. Bon, d'accord. Ça, c'est vrai. Mais bon, je dirais que c'est pas la moindre des choses. C'est pas, évidemment, on sait que c'est difficile. Hein. Donc, je ne vais pas vous dire que c'est la moindre des choses. Mais quand on aime quelqu'un, on on essaye de lui faire le maximum de gratification. Mais donc, la morale, si vous voulez, chrétienne, c'est à la fois, bien sûr, la trajectoire naturelle de l'être raisonnable. Il est beau, nous disent les Grecs, d'observer la vertu. Kalos, kagatos, c'est beau, c'est bon. Mais de même que les corps tombent avec une certaine, sur une certaine géodésique d'univers, ils tombent d'une certaine façon, c'est leur loi. De même, l'esprit tombe sur la loi, le décalogue, c'est la ligne normale d'un esprit, c'est spirituel, si vous voulez, c'est un guidage spirituel. Hein. Évidemment, on n'est pas obligé physiquement de rester dessus. Mais c'est, voilà, ça, c'est la nature même de l'homme qui, étant un esprit, bon, se conforme à ce qui est spirituel, et ce qui est spirituel, c'est vrai et c'est bien. Et donc, tout le décalogue, hein, tu feras le bien, tu éviteras le mal, tout le décalogue découle de là. Et ça, ça découle de la nature. Hein. Les commandements de Dieu, c'est pas un truc plaqué pour nous faire chier par-dessus. Enfin, excusez-moi hein, d'être un peu direct, c'est au cas où vous endormiriez, mais souvent, on dit, ah ben, le bon Dieu est embêtant, il nous demande de faire ci, ça. L'Église demande que, ben, très souvent, c'est le décalogue, c'est l'Église, d'accord, mais c'est le décalogue, c'est la raison. Hein. Alors, évidemment, il faut purifier la raison. Mais ce que je voudrais insister aussi beaucoup, vous voyez, c'est que, bien sûr, il y a cette trajectoire naturelle. Hein. Je crois que c'est ce que je vous ai dit, la trajectoire naturelle de l'être raisonnable, hein. Mais c'est le rayonnement du mystère du Christ en nous, la vie chrétienne. La morale chrétienne, c'est ça. Et on a ça en nous. Vous voyez. Moi, c'est pour ça que j'ai fondé la retraite du Rosaire. Petite pub au passage. Hein. N'hésitez pas à le faire au moins une fois dans votre vie, parce que je pense que c'est bon. De toute façon, la retraite, c'est... Enfin, c'est toujours positif. Soit en progrès, soit en reculpant. Voilà. Et donc, j'assiste beaucoup dans la retraite du Rosaire là-dessus, le fait que, si vous voulez, on a déjà la divinisation en nous par la grâce. Quoi. C'est pas, si vous voulez, donc il ne faut pas trop se tendre en ayant peur de partout. Quoi. Moi, j'y pense surtout dans le métro, quoi, dans le RER, le TGV. Je me dis, bon, ben, Dieu est dans mon âme, hein, et du coup, je bombarde un peu les gars du wagon, quoi. Enfin, gentiment, quoi. Je me dis, bon, je prie pour eux, quoi. Mais je me dis, je ne suis pas à côté d'eux par hasard, quoi. Et moi, je transporte le ciel dans mon cœur, et beaucoup de ces gars-là, ils pensent que ce sont des chiens qui vont mourir, et après, qu'il n'y a rien. Enfin, c'est quand même, je me dis, les pauvres, c'est triste, et je voudrais qu'ils croient. Enfin, qu'ils croient, d'abord qu'ils sachent, parce que Dieu existe, c'est aussi la raison qu'il y a. Mais qu'ils sachent qu'on a cet amour qui nous appelle, et que comme Dieu est dans mon âme, vous voyez, c'est presque plus facile, à la limite. Vous voyez. Parce que Élisabeth de la Trinité, donc une carmélite de Dijon, qui est une spiritualité très touchante, très, très intérieure, hein, sur la Trinité, disait, en gros, hein, je ne garantis pas les mots détaillés, le ciel, c'est Dieu, et Dieu est dans mon cœur. Le jour où j'ai compris ça, ma vie a été changée. Et elle a fait une magnifique prière à la Trinité, l'élévation à la Trinité d'Élisabeth, justement la carmélite de Dijon, qui était une grande pianiste, une grande artiste elle aussi. Hein. Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement et à m'établir en vous, immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Et puis il y a une prière courte, mais qui est absolument sublime. Une prière entièrement trinitaire sur la présence de Dieu en nous. Et donc voilà, je voulais insister sur le fait que nous avons, nous, dès maintenant, par la présence de Dieu, par la grâce sanctifiante, par la foi et les vertus théologales, nous avons déjà en petit, en germe, ce que nous aurons en vivant complètement développé dans le ciel. Mais c'est la même nature. Si vous voulez. Et en particulier, c'est très important de se rendre compte que la foi, l'espérance et la charité sont absolument géniales. Parce qu'elles nous mettent en communication directe avec des trucs qui viennent de Dieu. Quand j'exerce la justice, c'est normal. Il faut être juste. Il faut rendre à chacun ce qu'il est dû. Quand je suis prudent, il faut se comporter par la raison et faire ce qui est bien avec des moyens pour une fin. Quand je suis tempérant, c'est normal. Enfin, c'est difficile, mais c'est normal. Je ne bois pas trop, je ne couche pas avec une femme qui n'est pas la mienne, etc. Bon, pourquoi ? Parce que c'est conforme à la raison et à l'amour et au respect des gens. Voilà. Mais tout ça, on reste au niveau créé. C'est très important, parce que beaucoup de gens s'imaginent que le christianisme, c'est essentiellement ça. Bon, c'est peut-être ça, d'accord ? Mais c'est ça transfiguré par la charité. Parce que dans la foi, j'entends une parole qui vient de l'infini, il y a une lumière infinie qui s'allume dans ma tête, qui est la lumière même de Dieu. Dans l'espérance, il y a une main infinie, si j'ose dire, qui se tend vers moi, ou plutôt une encre que je jette derrière le voile, c'est l'image de saint Paul, hein, mais qui aura un filin, un bout infini, quoi, de longueur, et je peux tirer dessus, ça décroche jamais, sauf si moi je lâche le bout. Quoi. Dieu n'abandonne jamais, à moins qu'il ne soit abandonné le premier, dit le Concile de Trente. Donc ça, c'est même notre religion, l'espérance, c'est très important. Là, je viens de passer une retraite à quelques jeunes, et il y en a bien qui étaient très, très frappés, justement, en disant, bah, dans votre retraite, là, on touche du doigt un peu l'espérance. Quoi. Et Peggy a représenté l'espérance comme la petite sœur entre la foi et la charité, en disant, bah, la foi, c'est facile, c'est évident, parce que c'est tellement évident que Dieu existe, il suffit de regarder le monde et tout. Bon. Et puis la charité, bah, quand même, il faudrait être très méchant pour ne pas avoir les entrailles déchirées quand on voit la misère des gens. Enfin, ça, c'est la façon dont Peggy voit, hein, donc un peu insuffisante, mais porteuse quand même. Il dit, mais l'espérance, il dit ça, et il fait dire à Dieu, l'espérance, c'est ça qui m'étonne, dit Dieu. Et c'est vrai, parce qu'en fait, la vie est une lutte contre le désespoir. Enfin, moi, avec mes 62 ans sonnés, je peux vous filer le tuyau. C'est pas exactement comme ça. C'est une aspiration infinie d'espérance, quoi. Et donc, du coup, on n'est pas dans le désespoir. Mais c'est pas évident de ne pas être dans le désespoir. Moi, combien de fois des gens, comme je suis en habit tout le temps, sauf sous la douche ou dans une piscine, donc des gens me parlent, quoi. Et après, mon père, parce que je peux vous poser une question. Alors, je dis, ben, évidemment, je ferme mon bréviaire, on commence à discuter. Et je peux vous dire que très souvent, et quel que soit l'âge des gens, enfin, c'est vraiment, c'est le problème, c'est l'espérance. Est-ce que ma vie a un sens, ou qu'il y a une souffrance qui m'est arrivée, qu'on ne comprend pas, est-ce que je vaux quelque chose pour quelqu'un, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'aime dans l'univers, quoi. Et l'espérance, ce n'est pas du tout évident, hein. Et justement, le christianisme fait que notre espérance, par exemple, quand on dit le pater, je fais toute une série ici sur le pater, elle m'avait bien plu cette série, je crois aussi à quelques personnes, parce que le pater, c'est bouleversant, quoi. Le pater, c'est infaillible. Si vous priez le pater sérieusement, vous allez au ciel. Saint Alphonse de Ligorie dit, celui qui ne prie pas se damne, celui qui prie se sauve. Et le pater, c'est hyper génial comme prière. C'est vrai que Simone Veil l'avait appris de Gustave Thibon, elle s'était réfugiée pendant la guerre, c'est Gustave Thibon, quelqu'un que j'ai connu, en Ardèche. Hein. Elle connaissait le grec, parce que c'est une intellectuelle, et Gustave Thibon lui avait fait apprendre par cœur, en grec, le pater. Et c'est une prière qui l'a fascinée. C'est vrai que c'est une très très belle prière. Donc dans la langue où elle a été écrite dans les évangiles. Quoi. Et donc, par l'espérance, on a un truc, vous voyez, qui est déjà le ciel, mais avec la certitude que qu'on est dans la main de Dieu, et si on ne sort pas volontairement, il ne nous laisse jamais tomber. Et puis la charité, bon, là, c'est encore plus clair. On a la bonté même de Dieu qui nous est déjà donnée dans l'état de grâce. Il est en nous, et on verra dans les conférences suivantes, il nous prouve surabondamment son incommensurable et ineffable amour des hommes, hein. Comme dit le Kéroubicon, vous êtes fait homme pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Donc, si vous voulez, là, je crois que cet équipement chrétien, vous voyez, est extrêmement important. Il ne détruit pas la nature, mais il fait que nous avons déjà, si vous voulez, tout ce qui sera épanoui au ciel. Nicolas Cabasilas, je pense que je vous l'ai mis, mais tout à fait à la fin de la feuille, qui est un théologien byzantin du 15e siècle, juste avant la chute de Byzance, explique qu'en fait, Le monde, si vous voulez, c'est l'atelier de l'éternité, quoi. Ou plutôt, c'est une gestation, si vous voulez, comme dans le ventre de la maman. L'embryon, ben, il est très différent de l'homme, mais c'est l'homme quand même. Et c'est exactement, vous voyez, et tout ce qui se passe maintenant au stade embryonnaire sera complètement épanoui au ciel, mais c'est déjà là. Ça, c'est capital, vous voyez. Je crois que si on a compris, c'est difficile de le comprendre, mais si on adhère dans la foi à ce mystère-là, je pense qu'on est sauvé. Parce que quand on progresse, parce qu'on se dit vraiment... C'est quand même incroyable que j'ai cette chose-là. Et au fond, le saint, c'est simplement celui qui se dit, ben c'est vrai. Le saint, c'est celui qui, quand il ouvre l'évangile, il dit, ben c'est vrai. Et puis là, il les cherche à l'appliquer. Voilà. Donc, alors, en face de tout ça, troisième point, que je vais quand même évoquer, une proposition incroyable de béatitude, qui vient de l'amour incommensurable pour les hommes de Dieu. Deuxième point, donc, j'ai de quoi y répondre. Il me donne tout de suite, il a donné déjà à Adam, hein, et il me donne à moi dans le baptême de quoi répondre avec l'état de grâce et les vertus chrétiennes. Mais maintenant, qu'est-ce que je réponds? Il y a la liberté. Il y a quand même le mystère de la liberté. Qu'est-ce que je réponds? Et ça, c'est très intéressant, parce que, en fait, ce que Dieu me propose, si vous voulez, c'est pas une transformation automatique ou obligatoire, hein. On peut très bien dire non à Dieu. Et justement, parce que ça nous est proposé comme une alliance, si vous voulez. Le père Molinier, un dominicain qui est mort il y a quelques années, qui a beaucoup approfondi tous ces thèmes-là, a été un spécialiste de Thérèse de l'Enfant Jésus, justement. Et je crois que c'est cette sainte-là qui l'a sauvé du désespoir. Cet homme-là, ce grand intellectuel. Donc c'est pour vous dire, ceux qui aiment bien Thérèse de l'Enfant Jésus ont raison, parce qu'elle est... Moi, elle me faisait un peu peur, j'avoue, parce qu'elle me disait, oh, la petite Thérèse et tout. Moi, je crois qu'elle était trop grande. Moi, donc, mais, parce qu'en fait, quand on dit, moi, j'ai d'abord lu Saint Jean de la Croix. et j'ai lu tout Saint-Jean de la Croix, tout Thérèse d'Avila, et après, je me suis aperçu qu'en fait, c'est exactement ça, elle est complètement Carme, enfin, mais bon, avec son génie propre. Et donc, c'est pas du tout un truc à l'eau de rose, et ça me faisait un peu peur. Mais bon, maintenant, je suis rassuré, enfin, j'espère. J'essaie de me rassurer. En tout cas, elle est très secourable. Et en tout cas, elle a beaucoup aidé le père Molinier. Et je crois à juste titre, quoi, parce que il y a comme ce mystère de l'alliance. Et Molinier dit quelque part, au fond, Dieu est comme un homme qui est amoureux. Alors, il propose son amour à une femme. Et si la femme dit non, ça fait mal, quoi, c'est sûr. Enfin, l'inverse doit être vrai aussi. Mais autrefois, c'est normalement, c'est plutôt le garçon qui se déclare. Maintenant, je sais bien qu'on a réformé tout ça, mais bon. Mais bon, il y a quand même un ordre dans les choses. Restons un peu sur ce côté un peu romantique et fondé dans la nature aussi. Hein, un peu. De toute façon, la femme a déjà deviné avant ce qu'il avait dit. Hein. Donc le gars, il dit je t'avais deviné depuis 6 mois, mais le gars, il n'avait rien vu. C'est le charme du truc. Mais imaginez donc que Dieu est amoureux de l'homme. Alors c'est complètement incroyable, ça. C'est un peu incroyable, mais c'est révélé. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est pas contradictoire à la raison. Si c'était contraire à la raison, moi je ne serais pas chrétien. Hein. C'est, ça peut pas, le christianisme n'est pas contraire à la raison. C'est au-delà de la raison. Et ça me plaît bien, parce que même à mon avis, la raison montre qu'elle peut être dépassée. Mais la raison de l'homme ne peut pas s'affirmer infinie. Et donc il y a une sagesse qui, elle-même, est une sagesse dans sa forme la plus supérieure. C'est pas seulement une capacité de déduction. C'est une sagesse. Et cette sagesse, c'est qu'il peut y avoir une sagesse plus grande que lui. Et quelqu'un qui dit le contraire, ben, même Einstein, qui était plutôt panthéiste, enfin qui était avec une certaine religiosité, disait au père Buchberger, qu'il a rencontré aux États-Unis dans les années 50, et un dominicain aussi, français, qui lui expliquait les mystères de la foi. Et bon, il n'a pas adhéré à la foi, mais il respectait beaucoup. Il a dit, mais mon père, je comprends très bien que ce soit des mystères, car moi, en étudiant la matière, je me rends parfaitement compte qu'il y a des tonnes de choses qu'on n'explique pas, et que peut-être on n'expliquera jamais, et qui sont des mystères naturels. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des mystères surnaturels. Parce que c'était un vrai... C'est un homme qui est capable de s'étonner, quoi. Le vrai chercheur, c'est le gars qui n'est pas content d'avoir trouvé dans 3 km de forêt vierge qu'il a exploré, mais il a surtout découvert qu'il y en a 30 qu'il ne connaît pas. Quoi. Et au fond, c'est vrai, on se rend compte, ça, c'est le cas de commun entre les poètes, les chercheurs, les métaphysiciens, enfin normalement, c'est qu'ils admirent. Mais le père Abbé dont je vous parlais, qui était un grand scientifique, disait, moi j'ai toujours gardé la capacité d'admiration, ce qui avait manqué à son thermodynamicien et qui est quand même revenu à la fois vers la fin de sa vie. Parce que tout en cherchant, il faut toujours admirer. Et c'est ça, pour ça qu'on cherche, parce qu'on admire. Donc, alors, est-ce qu'on va dire oui ou non? C'est proposé comme une alliance. D'ailleurs, dans l'Écriture, hein, c'est vraiment l'image qui revient très souvent, hein, dans le prophète Osée, mais également dans notre Seigneur. Hein. Le royaume de Dieu est semblable à un roi qui fit des noces à son fils. C'est assez transparent. Et Bossuet, dans un de ses discours sur l'amour, dit « L'amour conjugal est le plus grand de tous les amours, et au fond, il est d'une certaine façon supérieur » à l'amour que les parents pour leurs enfants. Il est différent, d'accord. Mais c'est vrai que comme il comporte un élément d'élection, de choix libre, il a une phase de mystère, si vous voulez, qui ne se trouve moins dans l'amour paternel ou dans l'amour filial. Bon, bah, tout ça, il y a des nuances, c'était des nuances. C'est la beauté, justement, de l'amour, d'être revêtir différentes... Mais que Dieu prit la plus forte image qu'on puisse imaginer, c'est le libre amour d'un homme et d'une femme, l'amour conjugal. Alors Dieu est quelqu'un qui est préoccupé par l'homme. Qui est Dieu? Ben Dieu est l'être infini, le bien infini, l'esprit infini, la sagesse infinie, qui n'a aucun des défauts qu'on a ici-bas. D'accord. Tout ça, plus loin, il est amour. Ça, c'est Dieu qui, lui qui nous le révèle. Il est amour et il est un amour préoccupé de nous. Et ça, c'est heureusement que c'est révélé. Et donc, il nous propose son amour et il nous propose, ben, il dit, viens, tu es bien dans ton palais, là, l'univers, c'est pas mal, avec ses 15 milliards d'années-lumière de diamètre, là, et tout ça. C'est pas mal, il y a des trucs intéressants et tout. Mais là, tu finiras par t'ennuyer au bout de quelques milliards d'années. Donc, viens. Tôt ou tard, quoi. Enfin, on verra ça la prochaine fois avec la tentation d'Adam et Ève. Ça pourrait plus être rapide. Viens, c'est-à-dire accepte de recevoir la vision béatifique, de la recevoir de moi. Et donc, là, il y a une liberté, vous voyez, dans la réponse. Hein. Donc, on est libre. Parce que on est libre parce que, précisément, on est à l'image de Dieu et que l'amour ne peut pas être forcé et que, voilà. Et alors, on est libre aussi pour une autre raison que j'ai mis dans le grand B, c'est que notre liberté, donc on a une liberté à l'image de celle de Dieu, mais qui est par rapport à Dieu, comme nous sommes lui dans l'être par rapport à son être infini. Vous voyez, Dieu a un être infini, une liberté infinie. Et nous avons un être fini et une liberté finie. On a la liberté de notre nature. Mais quelqu'un qui se jette par la fenêtre, il n'est pas libre. Parce qu'il va contre les lois de la gravitation qui sont la nature de l'homme. Il fait un acte de libre arbitre mal à propos. Mais c'est ça le problème, vous voyez, c'est que je crois un des gros problèmes des mauvaises conceptions de la liberté, c'est qu'on oublie d'abord de réfléchir au libre arbitre. Pourquoi est-ce qu'on est libre même d'être chrétien ou de ne pas être chrétien? Et bien parce qu'être chrétien, il y a des inconvénients. Bien sûr, on espère aller au ciel, hein, mais voilà. Mais il y a des embêtements, quoi, etc. Il y a un certain nombre de choses dont il faut se priver parce qu'elles sont dangereuses ou mauvaises, etc. Puis il faut s'engager à la suite du Christ, il faut peut-être avoir certains outrages, etc. Et même dans certains pays ou certaines cultures ou certaines situations, on risque la mort. Donc il n'y a pas de désavantage à devenir chrétien. Donc ma volonté, hein, qui est éclairée par l'intelligence, l'intelligence voit que tous les biens sont limités. Ce que je veux, c'est le bien infini. Et tous les biens sont limités, y compris être chrétien maintenant. Parce que je n'ai pas tous les avantages, je n'ai pas la piscine à Coca-Cola à ma disposition tout le temps, et quatre femmes, ou, enfin si je suis prophète ou plus, avec les concubines, moi. Donc c'est quand même un peu embêtant. Quoi. Enfin, bon, c'est quand même, de ce point de vue-là, c'est des inconvénients, si on veut. Enfin, bon. Mais disons, on voit, comme vous voyez, le problème de l'homme, c'est qu'il est, justement, il est en déséquilibre, en fait, il est fini, mais il a une intelligence infinie, ou indéfinie. Et donc l'intelligence, elle lui montre la limite des biens, il a une volonté... une sorte de trou noir. Enfin, il paraît qu'on peut récupérer des trucs des trous noirs. Ça, j'ai vu dans la recherche. On croyait que non, mais bon. On va peut-être... Mais enfin, difficilement, quand même. Parce que c'est tellement massif que si vous lâchez un truc, ça tombe dans le machin. Bon. Mais nous, on a une volonté qui... Et aucun bien ne nous répugne. L'homme est quelqu'un qui cherche le bien. Et c'est pour ça qu'il faut la société politique, d'ailleurs. C'est pour ça que le bien commun est plus divin que le bien d'un seul. Parce que naturellement, si je crois, moi, que je vais épuiser l'humanité, je suis un dingue. Donc c'est pour ça qu'il faut une famille, il faut une société, il faut une humanité. C'est très très important. Dans le fondement est nécessairement justement le fait que la nature est créée par Dieu et qu'elle a des potentialités infinies. Donc je vois toutes ces potentialités, je vois que j'aurai pas que des avantages. Voilà. Et donc, mon intelligence me dit bien, ma volonté, eh bien, tu peux adhérer ou tu peux pas adhérer. On adhère toujours parce qu'on cherche le bonheur. Hein, mais on peut placer son bonheur dans tel élément, dans tel autre, etc. Et donc, ce qu'on appelle l'indifférence dominatrice fait que quand je choisis, quand je prends, je pourrais ne pas prendre. Contrairement à ce que disent tous les déterministes et certains psychologues et tout, que je suis déterminé entièrement, je suis influencé. Il y a des choses, si j'ai bu, si je suis en colère, si je suis, etc., d'accord. Bon, si j'ai été éduqué comme anglophone tout petit, comme breton, les bretons, dans ma génération, on était éduqués tous, c'est-à-dire que les anglais, ceci, cela. Bon. Enfin, bon, j'en suis sorti, grâce à Dieu. C'était un petit peu anglophobe, ça va. Mais quand même, c'est pas une détermination. Vous voyez, les Lamennais, il y en a un qui est devenu un saint, l'autre un hérétique, condamné par l'Église. Hein. Le frère Lamennais, justement, des écoles de Peu-Hermel, là. Il est devenu saint et son frère est devenu hérétique de chez hérétique, quoi. Ils étaient frères jumeaux quasiment, quoi. Donc moi je veux bien qu'on soit déterminé, mais dans certaines limites. Hein. Il reste justement un éclair de choix qui est vraiment un mystère incroyable que personne n'a jamais pu saisir, qui est justement l'acte du libre arbitre. Hein. Et donc si mon libre arbitre s'exerce dans le sens de la vérité et de la nature complète, je suis libre. Et qu'est-ce que c'est que la liberté? C'est une absence de servitude. Oui. La liberté, c'est quelque chose de comparatif. Hein. C'est toujours la liberté d'une servitude. Mais si vous avez les droits civiques, vous êtes libre par rapport à l'esclave qui ne les a pas, etc. Mais celui qui est raisonnable est plus libre que celui qui ne l'est pas. Parce qu'il peut faire des choses, l'enfant qui n'est pas raisonnable ne peut pas faire certaines choses que l'adulte est libre de faire selon la nature humaine. Vous voyez, être libre, c'est adhérer le plus possible à la nature que Dieu nous a donnée et à l'appel de grâce qu'il nous fait. Et plus j'exerce le libre arbitre dans le sens de ce bien total, plus je suis libre. C'est pour ça que la liberté est une conquête. Ce n'est pas un donné de départ. Le donné de départ, c'est le libre arbitre. Je peux dire oui, je peux dire non. Pour tel et tel bien. Mais est-ce que je vais utiliser ce oui-non pour un bien qui va me construire, ou bien pour me mettre dans une impasse dont je ne pourrais plus sortir? Vous voyez, dans Crime et Châtiment, l'assassin espère trouver la l'ivresse de la liberté, au-delà du bien et du mal, après avoir tué quelqu'un sans raison. Et il découvre, nous dit Dostoïevski, enfin, ou le père Molinier qui le commente, la prison du péché. Il arrive dans une prison et c'est se rendre compte qu'il est dans une prison qui finira par se convertir, par en sortir. Parce qu'aller au-delà du bien et du mal, il n'y a pas d'au-delà du bien et du mal. C'est rentrer dans la prison de moi, qui va soi-disant dire qu'il n'y a pas de bien et du mal. Donc vous voyez, on peut s'engager dans des impasses. Hein. Donc la liberté, c'est une conquête. Et c'est une conquête difficile. Hein. Ce n'est pas simplement quelque chose qui est donné dès le départ. Donc en fait, voilà, Dieu nous propose une aventure. Évidemment, c'est une très grande aventure. On en parlait tout de suite avec un ami qui a connu d'autres ambiances culturelles et d'autres religions. C'est une aventure formidable parce que, en fait, on nous propose un saut dans l'infini, mais c'est un saut raisonnable, quoi. Il est raisonnable de faire ce saut de l'infini qui est d'accepter la révélation du Christ, qui va m'appeler à le voir, à être heureux avec lui éternellement. Mais en même temps, ça reste une aventure. Donc c'est proposé comme une alliance, et je peux dire oui, je peux dire non. Et le baptême, c'est dire oui. Hein, on verra ça dans les conférences sur le baptême. C'est oui, ben j'accepte, voilà, je fais un pacte avec le Christ, c'est l'alliance baptismale. Alors, dernier point que j'évoque, c'est que quand on a insisté sur cette liberté, une proposition gratuite d'aller plus loin, il ne faut pas penser qu'on va, vous voyez, au ciel, et même en un sens dès maintenant, tous les biens naturels, tout le désir de l'homme sera comblé et d'une façon absolument incomparable. Ça, je crois que c'est un point très important parce que la recherche de la béatitude est souvent accompagnée de souffrance, hein, mais elle ne détruit aucun des biens et des bonheurs légitimes de soi. Et au ciel, en effet, tous les désirs de l'homme, connaître la vérité, être parfait dans la vertu, être reconnu par les autres, donc la reconnaissance de la personne, l'honneur, la richesse universelle, puisque le cosmos entier sera à la disposition des corps glorieux, parfaite amitié entre tous, ça c'est magnifique, ça pas une amitié de Facebook ou de je sais pas quoi, hein. Les amis là, bon, qui sont quelquefois des amis purement virtuels, hein. Donc une amitié parfaite, pourquoi? Parce qu'on verra tout le monde dans son mystère en Dieu, oui. Et donc on saura vraiment qui est notre ami. Actuellement, nous ne savons pas qui est notre ami, totalement. Hein. Et le plaisir incomparable, alors ça, saint Thomas insiste là-dessus, il dit le plaisir qu'éprouvent les bienheureux dans la vision est un plaisir qui est plus grand, plus intime, plus continu et plus pur d'inquiétude que tous les plaisirs sensibles de la terre. Il est plus grand parce que c'est l'esprit, hein, il est plus pur d'inquiétude parce qu'on l'aura toujours. Alors qu'ici-bas, c'est vrai que les bonheurs sont tous limités par l'horizon de la mort. Je suis ami de quelqu'un, il mourra. Ou je mourrai avant lui. C'est pour ça que c'est vrai qu'il y a un clair-obscur quand même dans la vie, le sentiment tragique de la vie dont parle un philosophe espagnol. Hein. Je crois qu'il faut, l'avoir, parce qu'il faut avoir l'amitié, mais justement, c'est à la fois bouleversant et magnifique de penser que notre ami va mourir. Oui. C'est-à-dire qu'au ciel, on les verra totalement et on est sûr de les garder. Et dans un plaisir continu, et voilà. Donc, quelque chose, comme disait Saint Jean Chrysostome, nous aimons le plaisir, mais nous l'aimons même plus, car nous l'aimons dans sa beauté. Vous voyez, dans rien de flétrissable ou de flétri, comme ça peut l'être ici-bas. Et donc, ça vaut vraiment la peine, parce que tout ce qui aurait été donc vécu dans la charité, de tout l'ordre naturel, hein, de toutes les amitiés, toutes les vertus que nous aurons exercées, tous les arts même que nous aurons exercés ici-bas, si nous les avons vécus dans la charité, ce sera sauvé dans la gloire. Et donc, en fait, l'alliance que Dieu nous propose ne pulvérise pas l'ordre naturel, mais elle le sanctifie, elle le transfigure, elle le porte à incandescence. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à poser des questions, même sur des points un peu plus indirectement reliés au thème.
Une question, je sais pas si c'est relié au thème.
Allez-y.
Dieu aime l'homme, aime sa créature. Dieu aime l'homme, il aime sa créature, il en est jaloux.
Qu'est-ce que c'est? Jaloux, c'est un. Alors là, c'est une métaphore. Hein.
Ah oui, ça
veut dire. C'est pour faire comprendre, si vous voulez, qu'il aime l'homme avec une telle intensité. Que pour le faire comprendre, on nous prend l'image de la jalousie entre les amants humains.
D'accord.
C'est pour nous faire comprendre. Hein.
Parce que la jalousie peut effectivement entraîner. C'est aussi un fruit de l'orgueil. La jalousie, alors, justement, je vous pose.
Oui, mais attendez, je vais vous prendre un autre exemple, si vous voulez. La vengeance est étudiée comme une vertu dans la somme de théologie. La vertu de vindicte. Parce que dans le droit, lorsqu'il y a une transgression, il correspond à la justice qui a une peine. Mais comme le mot français vindicte a une connotation péjorative, pour le simple fait que souvent la vengeance est exercée dans la passion, dans l'excès, etc., ou par une personne qui n'a pas le droit de le faire parce que c'est une personne privée, etc. Donc le mot vindicte ne va pas en français, vous voyez. Mais n'empêche que de soi, que le criminel reçoive une peine, c'est l'objet d'une vertu de la part du législateur. Et c'est même le premier droit du criminel d'être puni. Bon. Oui, mais justement. Eh bien, la jalousie, si vous voulez, La jalousie, ça veut dire que Dieu est très attentif, si vous voulez. C'est pas une jalousie qui se traduit par des vices du côté de Dieu, quoi. C'est une jalousie qui fait que, comme il vous aime tellement, il peut éventuellement vous envoyer à l'hôpital pendant 6 mois ou en prison pendant 4 ans et demi pour vous faire retrouver un bien plus grand que celui auquel vous étiez attaché. Relisez Solzhenitsyn dans l'archipel Goulag. Il écrit en grosses lettres majuscules « Béni sois-tu prison, car c'est grâce à toi que j'ai retrouvé Dieu. » C'est sur la paille humide d'un cachot que j'ai senti pour la première fois le bien remuer en moi, dit-il. C'est magnifique comme expression. Parce que justement, il avait un juif qui est mort, enfin, un croyant en Dieu, converti au christianisme d'ailleurs, et qui est mort en lui disant des choses extraordinaires, et ça l'a pas mal remué, il a senti le bien remuer. Donc, si vous voulez, la jalousie de Dieu s'est exprimée vis-à-vis de Solzhenitsyn, il s'est tapé 8 ans de goulag, quoi. Plus la réclusion, plus le cancer, plus... Mais avouez que ça a quand même donné un bel... Enfin, à mon avis, pour Solzhenitsyn, pour moi, c'est un géant du XXe siècle. Il a été très critiqué, mais justement, c'est vraiment un homme habité par une vision intérieure. Et donc, la jalousie de Dieu est une extrême attention qui peut... qui veut nous dire, voyez, vous pensez que... Parce que nous, les hommes, on est un peu ignorants, vous voyez, on est très ignorants sur toi à cause du péché. On verra la prochain café caté le péché, hein, le péché originel. Donc, on peut ne pas mesurer, du même que, vous voyez, une bonne éducatrice, enfin un bon éducateur, amène l'éduqué à se rendre compte qu'il a été indélicat. Vous voyez ce que je veux dire? Au début, il est pâteau, il est balou, et tout. Puis, peu à peu, il y a une éducation qui fait « Ah, ben, j'ai fait de la peine, vous voyez. » Et ça, c'est un art aussi. Donc, Dieu a cet art-là pour nous. C'est comme ça que je vois la jalousie de Dieu. Et ça veut dire aussi, c'est contre l'idolâtrie, quoi. C'est un seul Dieu, quoi. Il y a un seul créateur du monde et un seul sauveur de l'homme. Et donc, si vous vous attachez à des choses et que vous en faites un but ultime, eh bien, vous en faites des idoles. Et donc, Dieu est jaloux des idoles. Et c'est ça, le terme technique aussi. Par exemple, dans l'Écriture, vous voyez, l'adultère, quand on parle... Les pharisiens disent au Christ, nous n'avons pas été adultères. Ça veut dire qu'on n'a pas adoré des faux dieux. C'est une image aussi.
Est-ce que Dieu permet justement, permet les guerres, l'isolatrie peut rentrer les guerres, l'orgueil, les guerres civiles, propager certains propos de guerres civiles,
pour
leur propre pouvoir en fonction
d'un échiquier. Alors là, écoutez, c'est un problème. Alors, je crois qu'on en parlera peut-être avec le péché originel, parce qu'il y a une grande difficulté. Enfin, moi, je m'appelle ça de plus en plus pour tout le monde, mais surtout aujourd'hui, c'est qu'on confond le mal physique et le péché. Le mal physique est un mal physique, c'est pas un mal absolu. Le péché va contre Dieu, c'est donc un mal absolu en quelque sorte. Donc Dieu ne veut jamais le péché, jamais, mais il peut vouloir indirectement le mal physique. Positivement, le vouloir indirectement, mais positivement. Parce qu'il n'est jamais un absolu, si vous voulez. Pour faire de l'eau, il faut détruire Monsieur Hydrogène et Madame Oxygène. Sinon, tu n'as pas d'eau. Donc, c'est ennuyeux pour hydrogène et oxygène, mais c'est tant mieux pour l'eau. Donc, il y a un mal relatif pour certaines substances, quoi, nature, pour faire une nature, voilà. Et donc, le monde du changement est soumis à ce genre de choses. Et donc, il y a des défauts. Et là, Dieu peut les vouloir indirectement. De même que la peine est une chose qui peut être un mal physique, voulu indirectement par Dieu pour un bien supérieur qui est de renoncer au péché ou se convertir du péché. Donc c'est assez complexe parce que vous avez dès qu'il y a le péché, Dieu est complètement en dehors. Seulement, il n'arrête pas les gens, il leur laisse leur champ d'action, quoi. Mais quand il y a un mal physique, oui, là, de toute façon, je pense, la guerre maintenant, c'est aussi une façon de parler, parce que la guerre, c'est pas bien, il faut qu'il y en ait le moins possible, d'accord. Mais il faut pas, on oublie quand même qu'il y a une théologie catholique de la guerre juste, et même à mon avis naturelle. Bon, c'est peut-être de plus en plus rare aujourd'hui, vu nos moyens de destruction et tout. Mais c'est comme la légitime défense, il ne faut pas tuer les gens. Mais si je suis attaqué par un gars et que le seul moyen de sauver ma vie est de le tuer, j'ai le droit de le tuer. Mais maintenant, c'est plutôt vous qui passez au jugement. Hein, mais bon, c'est pareil pour la peine de mort. Malgré tous les efforts du catéchisme de l'Église catholique d'aller au maximum dans l'abandon du principe de la peine de mort, il est maintenu parce qu'il fait partie du dépôt depuis Saint Paul. C'est les trois cas, si vous voulez. La vie humaine est grande, mais elle n'est pas un absolu comme le bien. Comme l'absence de péché. Donc il y a des guerres justes. Oui. Il y a une coercition juste, il y a une force juste. Et je crois qu'on l'oublie trop aujourd'hui, et c'est ce qui fait justement l'avachissement de l'Occident et le mépris que vous, certains peuples, disent, mais qu'est-ce que c'est? Et par exemple, j'ai remarqué que les Occidentaux, enfin, et les évêques, enfin, pas mal, ils disent, ah, la violence, faut pas de violence et tout. Bon, vous faites un chahut, il n'y a pas de violence. Moi, quand j'étais petit, j'étais très chahuteur, mais je veux dire, c'est pas ce que j'ai fait de mieux. Mais je veux dire, on chahute, quoi. Ben, si on chahute pas, ben, on va tuer les gens dans la fin. C'est pas, faut un peu des défouloirs, non? Si vous voyez tous les matchs de rugby, la corrida, et tout le pastis et machin. Non, mais il faut un peu. Mais alors, bon, il y a des petites violences qu'on tolère, si vous voulez. Mais il y a aussi des forces qu'on exerce. La force publique, la gendarmerie, l'armée, c'est bon. Je suis désolé, c'est même très bon. D'ailleurs, supprimez-les, vous allez voir. Bonjour, les gars. Moi, j'ai un officier de gendarmerie qui m'a témoigné. On les avait consignés pendant 3 semaines à ce qu'on a, enfin, la libération, quoi. Bon, ils bougeaient pas parce que machin. Ils ont été obligés de ressortir assez vite. Hein. C'est des meurtres de partout. Donc, si vous voulez, c'est pour vous dire qu'il y a une force qui est bonne. Mais les évêques, les gars dont je parle, ils nous disent les violences. Mais attendez, il y a des forces aussi. La violence, peut-être, est une force injuste, mais il y a des forces justes. Donc on cherche à exercer en la dominant. Denois de Saint-Marc a un très beau passage sur le rôle de l'officier qui doit dominer, déclencher la violence dans l'assaut, et après la dominer vraiment, hein, pour que les gars n'aillent pas faire du mal, quoi. Moi, j'ai eu des témoignages assez fascinants, et il disait que c'est plus difficile encore. C'est peut-être plus facile de lancer les gars à l'assaut qu'après de les arrêter. Enfin, c'est pour vous dire que la force n'est pas intrinsèquement mauvaise, quoi. Elle est même bonne. Et je pense que c'est une maladie des modernes de diaboliser la force. C'est diaboliser l'injustice. Alors, d'accord. Il faut la force et il faut la justice. Et souvent, il manque un des deux. Ben, c'est pas facile parce qu'il y a le péché qui s'embrouille là-dedans et qui complexifie un peu tout. Oui ?
Vous disiez que le baptême est un acte de liberté, mais c'est une liberté qui est prise par les parents, par le père et la mère.
Ah, alors ça, oui. On parle du baptême des adultes. Hein. Alors là, il y a un problème plus particulier. Le baptême des enfants, si vous voulez, oui, c'est vrai que c'est... Là, on en parlera peut-être plus spécifiquement. Parce que c'est vrai que là... Mais je vais vous dire, il ne faut pas baptiser n'importe quel enfant. C'est bien que les progressistes disent ça, mais moi aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Parce que ce n'est pas un truc magique. Moi, une fois, j'étais de garde dans une paroisse. Enfin, une paroisse, oui, enfin, un centre. Et puis j'étais remplaçant, et les gens m'arrivent... Il y a un bébé à baptiser, on m'a pas connu qu'il y a un baptême, je dis, ah bon. Et je lui dis, mais je regarde un peu la famille, je dis, mais qu'est-ce qu'il va faire le catéchisme? Alors il y a une grand-mère qui a dit, moi, je n'ai pas le catéchisme. Alors bon, en plus, j'étais remplaçant, j'ai pas le temps. Donc j'ai accepté, mais j'aurais eu personne, j'aurais pas baptisé. Ah ben non, parce que vous faites des apostats encore plus coupables. Le chrétien, quand il fait un péché, c'est plus coupable que celui qui n'est pas chrétien. Alors quand vous donnez le baptême, vous donnez le caractère et la grâce. Mais si vous ne développez pas la foi avec la raison, hein, à mon avis, c'est criminel. D'ailleurs, c'est interdit. Hein. Normalement, on ne baptise que l'enfant d'une famille chrétienne. Et une famille chrétienne, c'est une famille qui donne le catéchisme à ses enfants. Et si possible, l'exemple en allant à la messe aussi. Parce que si les parents, l'enfant voit que les parents ne vont pas à la messe, ils vont jusqu'au catéchisme. Et après, la première communion, c'est le sacrement de l'apostasie. Hein. Une fois, je faisais un autre emplacement. J'ai fait des premières communions. Aux communions solennelles, il y en avait 80. Et le dimanche d'après, il y avait un type sur les 80. Bon, c'était aussi un autre gars qui les a préparés. J'ai plus le train en marche, moi. Mais je veux dire, c'est pas facile pour les curés, parce qu'ils vont pas repousser les gens, mais attendez, les enfants, donc on donne le baptême à des gens qui vont éclore dans un milieu chrétien, où ils vont avoir tout, si vous voulez, pour... Ça leur donne une... C'est vrai que, moi, quand vous faites le catéchisme, vous vous rendez compte, quand vous faites le catéchisme à un baptisé, c'est du buvard, quoi, tout rentre, quoi. C'est qui vraiment... C'est formidable, quoi, parce que... Et s'ils se structurent avec ça, bon, après, éventuellement, ils peuvent apostasier s'ils veulent, quoi. Mais il ne peut pas se faire barrer des registres. Malgré un registre, un jugement qui a été rendu, j'espère que ça va être cassé. Parce que vous ne pouvez pas des... C'est un peu ce que faisaient les communistes, ont fait ça parfois. Ils allaient dans les trucs et ils détruisaient les actes de naissance du mec qui avait été... Ce qu'on appelle la délétion mémoriée, l'effacement de la mémoire. Alors, ils ont même fait ça pour un village tout entier, parce que les gens s'y étaient même bouffés entre eux, quoi. Tellement il y avait pendant la guerre. Enfin, on a des témoignages, on a des preuves, mais tout a été effacé. Non, on efface le nom du mec parce qu'il n'existe pas, parce qu'il n'était pas dans la ligne de Staline. Quoi. Alors il y a des types qui sont devenus apostats et qui disent effacez-moi du machin. Et alors, c'était un dominicain qui me disait ça au colloque de Théros qui disait bon, ben, on peut marquer en marche à apostasier. Ça, d'accord. Mais là, ils ne sont pas tellement candidats. Quoi. C'est parce qu'il a été baptisé. Quoi. Et c'est vrai que si vous voulez baptiser avec un bon catéchisme, attendez, vous avez un plus formidable pour la vie. Quoi. Et donc les parents, ça vient du fait, si vous voulez, que on considère que les parents sont vraiment... Enfin, que les enfants sont une partie de l'humanité des parents tant qu'ils n'ont pas l'âge de raison. C'est pourquoi il est absolument interdit de baptiser les enfants des infidèles. les Juifs et toute l'Église à des peines très sévères, les gens qui baptisaient les enfants contre le gré des parents. Ça, c'est dramatique, il ne faut pas du tout faire ça. C'est contre le droit naturel, si vous voulez. Mais c'est vrai que c'est un peu un mystérieux, le baptême des enfants. Au début, il y avait que les adultes baptisés. Donc, pour un adulte, c'est très émouvant dans le baptême d'un adulte. Moi, j'en ai fait qu'un ou deux, mais très, très émouvant. Et justement, il y a un rituel, on l'expliquera les trois dernières conférences, un rituel absolument superbe avec des exorcismes, plein de trucs fantastiques, des questions, des rites et tout, des onctions, des bidules, machin. C'est prodigieux, quoi. Et en principe, c'est la nuit de Pâques ou la nuit de Pentecôte, donc la résurrection.
C'est pour ça que certains protestants le baptisent qu'adulte. Oui, c'est le sens de leur baptême.
Exactement, voilà. C'est ça. Oui.
Il y a un enfant qui va
mourir. Ah, ça, c'est différent. Parce que là, alors là, c'est des subtilités. Là. Ouais. Il y a eu des histoires, on n'a plus finir là-dessus. Le droit surnaturel prime sur le droit naturel exceptionnellement. Mais l'Église maintient le droit naturel, mais quand même, par exemple, les missionnaires chez les Lapons, enfin chez les Esquimaux, ils ont mis... Ils étaient traités comme des chiens, ils étaient au rang des femmes et des chiens, ce qui n'est pas ce que dire. Ils ont survécu, ils ont réussi à amadouer les gars, mais il y a eu des morts, enfin, c'est et la mission des Esquimaux, on a lu ça chez nous. Eh bien, quand il y avait un bébé qui mourait, tac, là, ils baptisaient, évidemment. Ils n'avaient pas besoin de la permission des parents, parce que l'enfant allait mourir. Quoi. Mais le problème, c'est quand il survit, quoi. Parce qu'alors là, après ça... Mais le droit, si vous voulez, il va mourir, et on lui donne la vision béatifique, quoi. C'est ce qui est, bon, il y a eu des drames aussi au 19e siècle avec ça. Parce que, mais ça, les modernes n'admettent pas ça actuellement, mais je pense que c'est justifié. C'est bon. Et même vous, laïque, vous pouvez, si quelqu'un vous demande le baptême à l'article de la mort, vous devez baptiser. Il faut savoir quoi faire. Hein. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il faut verser de l'eau ou toucher avec de l'eau et que l'eau touche le corps. Voilà. Et si vous êtes, même si vous n'êtes pas chrétien, et vous avez l'intention de faire ce que l'Église considère comme sacré, même si vous ne le considérez pas, vous êtes le ministre du Christ. C'est assez délicat, parce que vous voyez, l'ordre naturel existe, mais il est quand même, son but, parce que Dieu nous appelle à la vision béatifique, c'est quand même de favoriser l'ordre surnaturel. Donc s'il y a un conflit, c'est l'ordre surnaturel qui l'emporte.
D'ailleurs, il y a l'inverse aussi. Il y a des adultes qui veulent être baptisés et qui sont empêchés, voire...
Voilà. Mohamed Christophe était baptisé, donc à quel âge ? 17 ans ? 20 ans.
20 ans.
20 ans. Et il a eu du mal à être baptisé.
Mais dernièrement, par exemple, vous avez eu, on a eu le cas d'une Marocaine en Italie qui avait simplement commencé à fréquenter des chrétiens à l'église. A été assassinée par son mari quand elle a découvert ça, mais que les cas inverses peuvent se produire aussi, c'est-à-dire que quelqu'un qui est de tout cœur déjà disposé à devenir chrétien, à recevoir le baptême, est empêché. Qu'est-ce que dit l'Église ? Il va falloir des théologiens à se pencher là-dessus,
ouais.
Et des bons théologiens, pas ceux du stri.
Ben justement, il y a une question posée, donc Mohamed Christophe est fondateur de Notre-Dame de Kabylie, et on a fait un congrès plus large dans le quartier Lotéros à Toulon. Une question posée, le père Basile Dubarou a répondu de façon très intéressante. Il a dit, lorsque le chrétien emploie la force, ce n'est pas pour obliger les gens à croire, mais c'est pour obliger les infidèles à respecter la liberté de la foi.
À empêcher.
Voilà. Donc là, non, ce monsieur, malheureusement, on n'a pas pu le savoir à temps, mais normalement, le bras séculier peut être requis pour dire, ben non, vous devez respecter la démarche de la personne.
Vous parlez de la liberté de la foi, c'est également empêcher des éventuelles représentations artistiques qui dériveraient ou détourneraient.
Ah oui, là on arrive à une actualité scato-brûlante.
Sans penser spécialement à l'actualité. Mais
bah, écoutez, là je pense qu'il y a différents niveaux. Il y a un niveau, si vous voulez, officiel. Il y a un niveau, il y a des rapports interpersonnels, quoi. Enfin, moi, c'est toujours enregistré, là, le truc. Bon. Mais c'est pas grave. Mais bon, je sais pas, moi, je vois pas où il y a eu de violence. Enfin, moi, quand j'étais étudiant, nos chahuts, c'était quand même un peu plus. Je dis pas qu'il y avait des pavés qui volaient, mais bon, c'était un peu plus musclé. Et même les chahuts bon enfant, c'était des chahuts, quoi. Bon, moi, je suis pour le droit de chahuter, quoi. Ben, sinon, on s'emmerde trop. Et on... Même si le prof est pressionné. Enfin, pas dans le café caté. Mais je veux dire, bon, et alors par rapport aux autorités publiques, là, je pense qu'il y a une question de prudence. Je pense, quoi, que nos autorités religieuses, universitaires et civils, en moyenne, sont trop timides. Oui. Parce qu'il ne faut pas tout résoudre par des arrêts de police, par des interdictions et tout. Mais il y a quand même quelquefois des limites, quoi, si vous voulez. Puisque vous pouvez vous défendre, je crois. Enfin, moi, je n'ai pas beaucoup approfondi cette question-là. J'ai vu quelques rejaillissements de la merde qui sortaient par tous les médias dans ces disputes-là. Mais si quelqu'un insulte votre mère comme ça, quoi, vous pouvez il y a des voies juridiques pour lui faire rendre raison, quoi. Si au bureau, quelqu'un commence à insulter votre mère, bon, vous pouvez lui faire un procès, non? Bon, bah, alors, à mon avis, moi, il n'y a pas... Je trouve dommage que... Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un bureau de l'épiscopat qui fasse un procès systématique à tout manque de respect. D'ailleurs, c'est même à la limite, c'est presque en dessous du niveau religieux. C'est un manque de respect aux personnes et en plus au mystère du Christ. Ça sera à l'épiscopat de le faire. Et aux associations chrétiennes qui le font. Moi, je suis assez pour. Et je pense qu'il faudrait certaines mesures. Il faut quand même arrêter. Il y a des limites, si vous voulez, dans ce qui va contre l'ordre naturel à ne pas dépasser. Moi, personnellement, j'estime qu'un art qui ne peut s'exprimer que par ce qui, dans toutes les civilisations du monde, est considéré bien que de soi, la merde, c'est pas... C'est un être, c'est bon. Il y a même des certificats de coprologie, de machin, tout ça. Mais dans toutes les civilisations du monde, c'est considéré comme dépressif. Ça a été dit de la merde, ça. Bon. Donc, si un art qui peut s'exprimer que par ça, ben, pour moi, franchement, je vois pas très bien. Son rapport avec l'art est vraiment très lointain, très analogique. Donc, je pense que là, des mesures pratiques légales seraient possibles.
D'autant plus que moi, je pense que c'est le premier problème que pose ce type d'événement artistique. C'est pourquoi l'État, en particulier, soutient et finance des œuvres comme ça, à partir d'impôts prélevés sur des chrétiens qui ne seraient pas d'accord, en plus. C'est la question d'abord, la première de toutes, c'est ça. Quel est le rôle du bras séculier? Pourquoi financer de telles...
Moi, je pense que c'est un aboutissement. J'ai vu pas mal de choses depuis, je réfléchis, une cinquantaine d'années, mais je ne pensais pas qu'on verrait un truc pareil. Quand même. Des trucs affreux, on en a vu. Hein. Ouais. Mais un truc, c'est presque un sommet. Parce que c'est la perte du caractère éthique de l'État, de la puissance publique. Quoi. Il n'y a plus de caractère éthique. Et donc ça, c'est un truc, c'est un reculade de 2500 ans en marche arrière important. Quoi. Parce que donc, il n'y a plus d'éléments moraux, enfin éthiques, c'est le grand sens du terme, dans la paix publique que l'État doit imposer par la force légitime. Or, c'est faux. Donc, c'est très mauvais, parce que quand on va contre le vrai, on va dans le mur. Quoi.
Moi, je pense, je suis permis, parce que je n'ai pas trop de recul, mais je pense que l'État français... Il est un peu dépassé par ça. Oui. Il est un peu pris par son piège, justement, de toute idéologie, de l'histoire française, révolutionnaire, laïque, etc. Ce fait qu'aujourd'hui, on arrive à un ordre. L'État français n'arrive plus à mettre un ordre, parce qu'il met tout sur le laïque, et pas de religion, etc. Donc, je pense,
je pense qu'il devrait sortir, qu'il fasse comme moi, qu'ils aillent. C'est un jour, j'ai dit ça à un évêque, j'ai dit faites du stop et allez dans le métro, et puis vous verrez des humains, quoi. Il a rigolé, c'est un type qui a beaucoup de classe, un Africain. Je vois s'il a le sens de l'humour, là en effet il l'avait, parce qu'il devrait sortir les énarques, quoi. Et qu'il discutait avec les gens dans la rue, non? Sans tomber dans le populisme crasseux, quoi. C'est pas vrai qu'on est obligé de faire toujours ce qui est mal. Enfin, je sais pas, mon expérience me montre que non. Même les courtes expériences que j'ai, moi c'est ça. Charlier dit un truc, c'est un artiste justement, c'est André ou Henri qui dit ça. Il faut accepter d'être seul, et quand on a accepté ça, on s'aperçoit qu'on n'était pas seul. Ah ben, vous avez bien fait de faire ça. C'est pas vrai que les gens, si vous voulez, ou alors, si les gens sont pour ça, c'est quand même une minorité de décadents qui peuvent s'estimer heureux qu'on les tolère, quoi. Parce que c'est quand même des gens qui nous dominent trop. Et alors, je pense que les décideurs sont trop impressionnés par la vie de ces gens-là.
Il est fondé de collaboration.
Oui, c'est ça. Oui.
Et donc aujourd'hui, l'État français, n'exerce pas son état de pouvoir de police.
Absolument.
Parce qu'ils collaborent depuis une très longue année par rapport à ça, c'est une émanation, je pense, c'est une conséquence.
Oui, c'est une conséquence.
Et donc, après, les hommes d'église, je rejoins, les hommes d'église, les évêques, qui n'agissent pas.
Une partie a réagi, mais moi j'ai été étonné quand même de la division, de la mollesse de certains des prélats.
Ils ont réagi parce que contraints par la masse des événements, je pense que c'est ça.
Mais certains ont réagi en disant c'est pas une bonne façon de protester. Je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire ça?
politique, enfin, l'Église n'échappe pas à la politique. Et oui. Pour les évêques de France, c'est difficile de se ranger à la queue de Civitas, qui est malgré tout.
Oui, non, mais d'accord, mais il n'y avait pas de Civitas. Et puis attendez, moi je dis un truc, c'est que moi j'entends bassiner, je connais un peu le Moyen-Âge, l'Inquisition et tout ça. Hein. On nous bassine depuis des années en disant l'Église, enfin depuis Vatican II, ça fait 50 ans, l'Église était compromise avec le pouvoir temporel, machin, machin, machin. Bon. Parce que le pape faisait en effet des guerres et tout, machin, bon, dans la féodalité. Bah, excusez-moi, ils refont exactement la même chose, quoi. Je trouve que peut-être les papes se sont trop mis à quatre pattes devant les systèmes féodaux, en particulier en excommuniant leurs ennemis politiques, c'est pas quand même tellement cool, quoi. Bon, peut-être ils ont été trop loin, d'accord, mais maintenant, c'est pas peine de leur taper dessus et de faire exactement la même chose, quoi. Vous voyez, ce qui donne pas des leçons au passé, alors. Et ils sont un peu comme les évêques de cour qui pouvaient pas dire la vérité à Louis XIV ou à Louis XV, quoi. Sauf Bossuet qui allait carrément dans ses serments. Là, c'est vrai, oui, je suis d'accord, c'est un aspect politique.
Et par ailleurs, on voit que c'est à sens unique. Hein, c'est toujours la même foi qui est dénigrée, qui n'est pas défendue. Bon, le pouvoir temporel, justement, dans l'islam, qui est totalement intégré, ne supporterait pas un seul instant telle chose. Non, mais c'est, tout est à revoir maintenant en France.
En France, elle est politiquement correcte. C'est ce qu'on. Et maintenant, surgit, il est politiquement incorrect. Pourtant, c'est quand même reconnu. C'est-à-dire que la société française commence à accepter, l'idéologie commence à accepter qu'il y a des politiquement incorrects. C'est-à-dire, il y a des contestations.
Mais on vient sur le sujet original.
Beau, oui, voilà, là, si on parle là-dessus, c'est. Oui. S'il y a encore une ou deux questions, n'hésitez pas. Mais quand même, ça nous oblige, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Mohamed Christophe, à la cohérence, quoi.
Oui, absolument. Alors, c'est pour ça que, d'ailleurs, tout à l'heure, quelqu'un parlait de la jalousie de Dieu. Dans la jalousie de Dieu, il y a quelque chose, au moins, qu'il faut remarquer, c'est que ni jaloux que celui qui nous aime. Il y a un amour. Sinon, il ne serait pas jaloux. Qu'est-ce que c'est qu'un Dieu qui ne serait pas jaloux? Ben, c'est un Dieu qui punit. Donc, un Dieu qui est jaloux, ça veut dire qu'il y a un sentiment pour nous. Et ça, c'est le début dans l'Ancien Testament de la manifestation justement de cet amour de Dieu. Oui, qui se révèle totalement dans le Nouveau Testament. Mais dans l'islam, qui n'accepte pas l'amour de Dieu, eh bien, c'est qu'un Dieu punisseur, en tout. Faire ceci ou cela, sinon on est puni. Donc ça, c'est peut-être pas ma. Il faut le voir avec, bien sûr, à partir du Nouveau Testament, mais moi, je retrouve dans les sentiments exprimés dans l'Ancien d'un Dieu jaloux.
Une préparation
à ça. Préparation.
Surtout qu'il fallait isoler Israël de l'ambiance polythéiste des grands empires. Et donc, parce que dès qu'il commençait à trop dialoguer ou trop se mettre, il tombait dans le polythéisme, quoi. Donc ça, on voulait absolument éviter ça. C'est pour ça qu'on insistait sur la jalousie. Ils étaient les seuls qui n'avaient pas le droit de prendre des dieux hors de leur cité. Quoi.
C'est à qui le billet, quoi.
Pardon ?
Qu'est-ce qui a payé une croix ?
Bah, c'était peut-être celle-là, pourquoi ?
Hein ? Est-ce que monsieur l'a payé ?
Ah, il l'a payé déjà ? Voilà, ok. Bah, donnez-le à monsieur, comme ça il va. Merci. Par rapport à la liberté aussi, qu'est-ce que vous pensez de... En fait, là, on voit bien que la liberté de Dieu fait qu'il crée des êtres libres.
Oui.
Est-ce que réellement, on peut aimer sans liberté? Est-ce qu'en fait, finalement, est-ce que Dieu était... Il ne pouvait pas faire autrement que de créer.
Oui, c'est en sagesse, si vous voulez, Dieu ne peut pas faire un esprit non libre. Et c'est de même qu'on ne peut pas faire de la matière énergie non mobile. Enfin, non. Il y a une sorte de propre, si vous voulez, quand vous êtes dans le domaine matériel, il y a le changement. Bon. Matériel, énergie, matière. Hein. Et vous êtes dans le domaine spirituel, il y a le libre arbitre. Sinon, vous n'êtes pas un esprit. Enfin, c'est pas concevable, si vous voulez. On ne peut pas être une espèce d'avatar. Aveugle de Dieu, un Dieu aveugle. Vous voyez, l'homme ne peut pas être un Dieu aveugle, c'est-à-dire quelqu'un qui serait un esprit, mais qui ne pourrait pas s'auto-déterminer lui-même. Vous voyez, ça n'a pas de sens. La liberté fait partie de l'esprit créé.
et l'amour. Je ne vois pas comment on peut aimer s'il n'y a pas de liberté.
Et justement, l'esprit créé par Dieu, il saisit qu'il est créé par Dieu et il se tourne vers lui, ou il ne se tourne pas vers lui. Et sinon, il ne serait pas un esprit. Et donc, Dieu, si vous voulez, Dieu peut ne pas créer, mais s'il fait des esprits, il ne peut pas leur dénier la liberté. Donc, il a pris le risque de la liberté. Dieu a préféré une aventure, si vous voulez, avec la possibilité du refus, plutôt que de priver ceux qui voulaient aller au ciel d'y aller. Oui. Oui.
Qui vous disent oui, mais moi, quand vous leur parlez de Dieu, oui, mais moi, de tout de même, je fais le bien et j'ai pas besoin de Dieu pour faire le bien et je crois la communion entre les vivants et les morts, et je parle mort et je parle vivant.
Ah oui.
Pour moi, c'est la même chose et j'ai pas besoin de Dieu, tout ça, et j'ai pas besoin de Dieu.
Il y a une part de vrai, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que le fondement de la morale, c'est la raison. Donc c'est un fondement immanent, mais il ne tient que parce qu'il y a un fondement transcendant qui est Dieu. Donc il ne faut quand même pas dire, mais les gens qui font le bien parce qu'ils disent que c'est bien et qui évitent le mal parce qu'ils disent que c'est mal, qu'ils ont tout faux. Mais justement, c'est le fondement même du bien et du mal. En réfléchissant un petit peu, vous apercevez que c'est forcément Dieu. C'est ce que je crois que c'est le philosophe sur lequel Jean-Paul II a fait sa thèse, un phénoménologue, Max Scheler, je crois, qui dit il y a dans l'âme un juge infini qui est plus impressionnant que tous les juges de la terre, c'est la conscience. Et quand je transgresse, c'est bien montré dans les romans de Dostoïevski, quand je transgresse, le juge est toujours là, quoi. Et comment se fait-il que l'homme, qui est un être fini, et quelque chose en lui qu'il estime intransgressable. Comment, d'où ça vient ça? D'ailleurs, certains modernes disent, ben non, Sartre et d'autres disent non, je construis la nature humaine. Puisqu'il n'y a pas, il y a moi, et la nature humaine, c'est ce que je vais faire. Il n'y a aucune norme préexistante. Mais la plupart des gens ne fonctionnent pas comme ça. Ils estiment qu'il y a des choses intrinsèquement mauvaises et intrinsèquement bonnes. D'où ça vient cette différence? Et ils estiment qu'en aucun cas, même si on paye un milliard, je peux tuer un innocent. Même si tu me payes un milliard et que tu me construis une bibliothèque ou une église, une basilique, je n'ai pas le droit de tuer quelqu'un, je n'ai pas le droit, je n'ai même pas envie. Enfin, disons que, parce que pourquoi? Mais réfléchissez, c'est très profond. Enfin, ce n'est pas une preuve rigoureuse de l'existence de Dieu, mais c'est un indice extrêmement fort. Si, l'existence d'un bien moral, même chez les truands, vous voyez, les truands, il y a une certaine... je n'ose pas dire que parfois on se demande où est la moralité, bon, mais il y a quand même, pour la plupart d'entre eux, hein, sauf quelques cas, à la limite de la folie, quoi. Il y a certaines choses qu'on fera jamais. Jamais. Même si on meurt. Comment ça se fait, ça? Ben, c'est une perception. Vous voyez, même, je lisais récemment le Franz Stock, là, vous voyez, l'ange de l'enfer, l'aumônier allemand qui a accompagné les types de Fresnes, du Cherche-Midi et de la Santé. Donc, il a accompagné au poteau 2000 fusillés pendant la guerre, sur les 4000 du Mont-Valérien. C'est impressionnant. Il est tombé malade, probablement. C'est un type extraordinaire. Pourquoi je vous parle de Franz Stock? Oui, c'est à propos, oui, il accompagnait, donc enfin, certains acceptaient le baptême ou le pardon de Dieu et tout, et puis d'autres non. Alors il les soutenait humainement jusqu'à la dernière minute. Et il décrit la mort de certains de ces jeunes types à 17 ans, qui disaient, ben, qui écrivait les dernières lettres, c'est lui qui les aidait à écrire les dernières lettres. Vous direz à ma mère que je suis mort dans ma foi communiste. Ben oui, c'est terrible, hein. Mais en même temps, c'est impressionnant, je trouve. Parce que pour lui, ce gars-là, il préférait mourir plutôt que de dire qu'il n'était pas communiste. Pourquoi? Il était dominé totalement, si vous voulez, jusqu'au sacrifice de sa vie, par quelque chose. Alors voilà, il ne plaçait pas la transcendance au bon endroit, je suis d'accord. Mais ça veut dire que, vous voyez, que, sauf vraiment dans peut-être la modernité la plus gélatineuse, scato, nulle, c'est pour ça qu'elle est haïssable, cette espèce de fausse modernité. Il y a une appréhension d'un absolu moral, quoi. Donc cette personne, vous pouvez lui dire, bah, c'est très bien. C'est pas que vous en ayez un besoin immédiat, mais réfléchissez un petit peu. D'où vient que vous estimez que certaines choses sont bonnes et d'autres mauvaises? Et puis en plus, si vous voulez, Dieu, si vous voulez, je dirais, bon, Dieu n'est pas qu'une question de métaphysique, là, c'est beaucoup une question de foi, bien sûr, mais enfin, Dieu existe parce que l'être existe. Hein. Et souvent, les gens ne remontent pas jusqu'à la connaissance naturelle de Dieu, parce que pour eux, à mon avis, il n'y a pas assez d'être. Mais c'est vrai, pour moi, c'est ça le problème. Parce que s'il y a une saisie métaphysique de l'être, ben, il y a, je dirais, pas automatiquement, parce que la démonstration de Dieu, Dieu n'est pas évident, contrairement à ce que disent certains musulmans. Mais il est certain, naturellement. Et si je saisis vraiment l'être, je suis renvoyé à Dieu. Là, je dis, ah, mais il y a une évolution, mais il y a un Big Bang et tout. Je dis, bah oui, ben, il y a un Big Bang, très bien, mais d'où sortent les molécules, d'où sortent les trucs, etc. Et pourquoi il y a un Big Bang? C'est au niveau de l'être, si vous voulez. Et je suis très frappé que certains s'imaginent que s'il y a une évolution, moi, j'ai écrit un article là-dessus, je me suis fait assez engueuler par certains cathos, et j'ai dit, bon, l'évolution, à mon avis, elle n'est pas prouvée, d'accord, du tout, mais si elle est prouvée, ce n'est pas contraire à la Bible ni à la raison. Bon, alors je me suis fait agonir par des tas de mecs, vous êtes à la remorque du monde moderne, je ne sais pas quoi. Vous. Mais, attendez, et ces gars-là, ils ont peur que l'évolution supprime Dieu. Et moi, dans mon article, j'ai écrit, s'il y a de l'évolution, enfin, c'est pas sûr du tout, ça peut-être je vais le montrer, hein. Mais pour mon avis, les analyses sont intéressantes dans ce sens-là, une certaine évolution qui est certainement pas celle de Darwin. Bon, il faut encore plus de Dieu. Parce que la finalisation du paquet de départ est encore plus forte, si vous voulez. On a fait le calcul, si vous voulez, vous variez n'importe quoi, un 10 puissance moins des tas de chiffres, et le monde n'est pas possible tel que nous le connaissons, parce qu'on n'arrive pas à la synthèse carbonique. Et donc l'évolution, si tout est programmé, y compris l'apparition de la vie à partir de la matière chimique, hein, dans ce qu'on appelle la biogénèse, enfin, ou l'abiogénèse, c'est-à-dire que la vie serait, bon, d'une certaine façon, peut-être avec des interventions d'anges ou de Dieu à certains moments, mais si tout est programmé dès le départ comme ça, c'est encore plus fort au point de vue de la pensée. Et donc la cinquième voie de la preuve de Dieu est encore plus assurée. C'est ce que pense John Stone, que beaucoup de gens attaquent dans les cathos propres sur eux. Hein. Ils n'aiment pas John Stone, je ne sais pas pourquoi, mais qui est un autodidacte moderne, mais qui a fait un bouquin, « Notre existence a-t-elle un sens ?» Et je trouve que ce bouquin est intéressant, malgré quelques faiblesses philosophiques qui ont été relevées par Michel Sagan, parce qu'il dit, voilà, l'état actuel de la science est une bonne base de pose des points d'interrogation, encore plus fort, beaucoup plus fort que du temps du déterminisme absolu. Et maintenant, on a des principes d'incertitude ou d'indétermination. Alors, en physique, on a le théorème de Gödel en mathématiques, on a des choses extrêmement ébranlantes qui pulvérise le scientisme pur. Alors ça approuve pas Dieu, mais ça calme les gens, hein, je peux vous dire. D'ailleurs, beaucoup de scientifiques sont devenus bouddhistes ou je sais pas quoi, plutôt que pour pas tomber dans le christianisme, parce que c'est quand même un peu... Faut pas oublier que le modèle du Big Bang a été interdit en Chine maoïste pendant un certain temps. Hein. Bon, c'est vrai que c'est un prêtre qui l'a mis au point. Enfin, il y avait en même temps un communiste qui l'avait trouvé en même temps, Gamow avait trouvé en même temps que le maître. Donc, mais c'est pour vous dire que la science actuelle est très intéressante parce qu'elle nous met vraiment... Voilà, elle pose vraiment de très grosses questions. Donc, dites à cette dame, mais c'est pas que vous ayez besoin de Dieu ou pas, c'est pas uniquement vous qui comptez, c'est comme le réel, quoi. Ce qui est intéressant, c'est de savoir s'il existe ou pas. Moi, j'ai été assez frappé de ça, que c'est quand même une chose que quelquefois les chrétiens semblent oublier, quoi. Et alors, ils vous posent, ou les agnostiques, des tas de questions, les deux questions clés, hein, quand on va un peu vous embêter, on dit, bon, mais la capote anglaise, l'inquisition, qu'est-ce que tu réponds à ça, nanana, j'y attends. Calme, est-ce que Dieu existe? Tel que le Christ est Dieu, est-ce que l'Église est divine? Ah non, mais ça ne m'intéresse pas. Mais la capote anglaise, le pape, n'est une femme d'assassin et tout. Et la question, vous allez torturer des gens, vous, les dominicains? Il y a une dame qui m'a dit, c'était avant que je fasse la fondation, fondez pas des dominicains, ils ont du sang sur leur robe. Fondez des cisterciens. Il était dans le cisterciennisme, qui est très beau aussi, et son blanc aussi. Enfin, Saint Bernard approchait des croisades, il a écrit la règle des Templiers. Moi. Alors je veux bien, il n'a peut-être pas du sang sur sa robe à lui, mais il y en a sur la robe des Templiers. Mais alors, je veux dire, je connais assez bien la procédure de l'Inquisition qui était un grand progrès juridique, c'est prouvé maintenant. Bon. Et comme les. Bon. Mais alors, on peut. Mais je discute pas là-dessus, parce que c'est pas la peine. Si la personne cherche un peu, je lui dis, écoutez, tâchons de trouver l'ordre des questions. Et à mon avis, l'ordre, c'est quand même de soi. Pour chacun à sa voix. L'un va être converti tout d'un coup, le statut de la Sainte Vierge et tout, bon, d'accord. Mais en pensée, j'ai rencontré une fois un scientifique, enfin. À la fois homme d'affaires, et je lui ai posé la question, est-ce que vous avez réfléchi, qui était agnostique à cause d'une question de présence réelle? Et je lui ai dit, est-ce que vous avez réfléchi à l'ordre dans lequel on doit poser les questions? Il m'a dit, non, je n'avais jamais pensé. C'est pour ça un peu l'ordre des cafés catés, quoi. Est-ce que Dieu existe? C'est quand même intéressant, si Dieu existe. Ça change un peu, même l'Inquisition. Est-ce que le Christ est Dieu? Ça change beaucoup l'Inquisition. Est-ce que l'Église est assistée par Dieu? Ça change énormément aussi. Est-ce que le salut éternel est important? Ça change aussi. Je ne canonise pas tous les inquisiteurs. Mais je veux dire que, vous voyez, donc cette dame, il faut lui dire, voilà, est-ce que, à partir de ce qui est devant toi, ça vient d'où ? Et ça va où ? Ce que tu fais est intéressant, mais le monde aussi, ton frère est intéressant, qu'est-ce qu'il va devenir ? Comment sais-tu que les âmes continuent à exister ? Très bien, tu le sens, mais est-ce que c'est certain, etc. Donc il faut quand même approuver sa première démarche, mais il faut la pousser à aller plus loin, en passant un peu à la réflexion fondamentale des causes profondes de l'existence de Dieu. Bien. Donc, on se retrouve
mardi 7 février.
7 février pour... y a-t-il une catastrophe à l'origine ? Et le petit sac est à l'entrée près de la jeune femme qui a... Voilà, le petit sac noir, là. Merci beaucoup.